Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui se prend pour Peter Pan depuis qu'elle vit au crochet d'un capitaine, Christine Bravo.
Bonjour.
Une grosse tête qui, après les trois coups au théâtre, attend le quatrième à la maison, Jean-Philippe Janssen.
C'est pas faux.
Une grosse tête qui est l'une des rares à parler le Jean-Philippe première langue, Chantal Latsou. Oh yeah. Une grosse tête fan de magie au théâtre et dans le potage à la radio, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui peut passer d'une analyse géopolitique à un conseil jardinage ou un témoignage sur la famille royale d'Angleterre en un claquement de doigts, Stevie Boulet. Une grosse tête qui ne va plus voter parce que la dernière fois, il est resté bloqué dans l'isoloir. Bernard Mabille.
Ça vous fait rigoler, ça.
Vous votez où, d'ailleurs, mon bon Bernard?
Dans l'isoloir.
Non, mais je veux dire...
Je vote dans le Gers.
Dans le Gers.
Ah, ah. Oui. Avec l'isoloir.
Il avait
j'ai fait, une, ouais. J'ai fait une procuration.
Ah, vous avez fait une procuration? Voilà. Ah, dites donc.
Ah, voilà. Dites donc.
Bah, faut être sûr, faut vraiment avoir confiance en la personne en qui...
Ah bah oui, mais comme je vote la salle, ça va pas être grave. Je vote la salle au premier tour et Hidalgo au second, donc je suis sûr de pas être déçu.
Vous auriez plus de chance à faire l'inverse.
La salle, j'ai rencontré dans la rue, il est très sympathique.
Ah oui, oui.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Au moins, c'est la nature.
Quand je t'entends parler politique, je me dis que notre voix vaut la tienne, c'est fait grave quand même.
Elle va mieux, Christine. Bravo, elle a été malade, souffrante.
Paraît qu'elle était morte. Oui.
Elle est revenue.
Elle nous revient après deux semaines d'absence, quasiment.
Oui, bah, ça se
parlez moins fort, je suis en convalescence.
Ah oui, oh, bah, oui. Qu'est-ce qu'elle a eu?
Un affaissement du visage.
Mais dans ces cas-là, vous êtes soigné à bord de votre bateau ou vous allez à l'hôpital?
Ah, j'ai compris à quoi servait un homme, Laurent.
C'est-à-dire
ah ben, j'ai une infirmière exceptionnelle.
Elle a une grosse seringue, surtout.
Et vous savez quoi?
Non.
Eh ben, on trouve pas de docteur.
Oh, ah bon,
même à Paris, on attend SOS Médecins.
Ah, bah,
des
c'est la désertification fluviale, il n'y a plus de médecins sur l'eau.
Il
n'y
a plus de médecins. Non, mais ça m'a fait penser à cette France.
On vous a manqué en tout cas, j'en suis
sûr. Ah oui.
Ah oui.
Et ton mari, tu l'as pas contaminé? Il est en pleine forme, il est beau, il est sympa. Hein.
C'est peut-être lui qui t'empoisonne à petit feu avant le mariage pour que tu meurs.
T'es sûr de vouloir te marier?
Ah, de plus en plus, oui. Plus je vieillis, plus je suis malade, oui.
Moins t'as d'argent, plus tu veux.
Il va s'amuser, le jeune marié, dis donc.
Ah, en fait, il se marie avec un EHPAD, le mec.
Ah, oui, la nuit de noces au Viandox.
Et elle est comment ta robe? Tu mets une robe meringue? Tu mets une meringue ou une princesse?
Il est marin ou archéologue? Pour Agnès Vidor, tiens, en plus, la première citation vous concerne, monsieur Plaza. Mme Vidor habite Metz, donc en Moselle, qui a dit « Pourquoi dit-on toujours qu'un appartement est haut de plafond et jamais bas de plancher ?»
Francis Blanche.
C'est pas Francis Blanche.
Pierre Dac.
C'est Pierre Dac, évidemment. Bonne réponse de Bernard Mabille. Tiens, puisqu'on parlait du capitaine Crochet, pour Mélanie Lejaille, qui habite Lorient, dans le Morbihan, écoutez celle-ci, Christine, qui a dit « On ne se réjouira jamais assez de ce que le capitaine Crochet ait choisi de devenir capitaine plutôt que proctologue. »
Des proches.
Pas des proches.
Jean-Yann.
Pas Coluche.
Doris.
Quelqu'un qui vit encore. Ah.
Est-ce qu'il est français?
Francophone.
Est-il plutôt chansonnier?
Légaré.
Non, il est mort.
Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Stéphane Plaza. Une citation maintenant pour Fabien Michaud, qui habite à Nantes, en Loire-Atlantique, qui a dit « Tout s'arrange dans la vie, même mal ».
Ah, je la connais, c'est pas Guitry ou...
Non, c'est pas Guitry.
Mais c'est Jean.
C'est, on va dire, un habitué des grosses têtes depuis de longues années.
Oh, là, là, Capu.
Alfred Capu. Oh, bonne réponse de Bernard Mabille.
Oh là là.
Une autre citation pour Maxime Bresson, qui habite Olna dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Un homme politique... » Alors vraiment, elle est d'actualité, cette phrase. « Un homme politique, c'est quelqu'un qui est prêt à donner votre vie pour sauver sa patrie.
» C'est mort, ça.
C'est mort, oui, c'est mort.
C'est mort il y a longtemps ?
Ah, c'est mort il y a un petit moment.
Clémenceau ?
Clémenceau,
Churchill.
Non. Ah bah non, c'est pas un homme politique.
C'est un écrivain ?
Quelqu'un qui dit du mal des hommes politiques, c'est
un
rarement un homme politique.
C'était un journaliste, non ?
Un journaliste, non.
Plutôt un comédien, un dramaturge.
Un chansonnier.
Non, c'est un écrivain, Laurent.
Un écrivain.
C'est Hugo, c'est Balzac. Ouais, Balzac.
C'est Colette.
Marcel Achat.
Zola, non.
Balzac. Ah, c'est genre... C'est...
Anatole.
C'était
quoi Anatole?
Anatole France.
France, Anatole, vous voulez dire?
Il m'a perdu.
J'essaie de le piéger.
Est-ce que c'est de cet ordre-là?
Pas
de...
du tout.
Non. Ah, oui. C'est avant...
C'est français.
Ah non, un homme politique, c'est quelqu'un qui est prêt à donner votre vie pour sauver sa patrie. Ce n'est pas français.
Merci.
Churchill.
Britannique.
On vous a dit que c'était pas un homme politique.
Woody Allen.
Woody Allen. Comment vous dites-vous?
Woody Allen pour, et Woody Allen ah, non, pour les Anglais.
Pas ça, non.
Pardon.
Woody Allen pour les Anglais et Woody Allen pour les Français.
Ni l'un ni l'autre.
C'est un Anglais.
Laurent. Twain.
Mark Twain. Twain. Bonne réponse. De Jean-Philippe Janssen, eh c'est oui. Mark Twain.
Oui, je le savais.
Une question pour Cédric Lemaire, qui habite Roisey-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mabi?
Il va pas falloir déroger aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on peut se faire frapper tout de suite. Moi, je reste complètement droit, comme ça. Oh, il est d'une humeur gringrinche.
Vous trouvez que je suis mauvaise humeur?
Oh, bah, il est grincheux, après, à nous griffer, dis donc.
Non, pas du tout, je suis très bonne humeur. Enfin, j'étais de bonne humeur jusqu'à ce que je vous vois arriver tous.
Oui, alors il est gringrinche.
Hier, je suis allé à l'Opéra Bastille.
C'était
magnifique. J'allais voir la Bayadère.
C'est vrai.
C'était magnifique. Alors écoutez, c'était moi. Il faut arriver à 59 ballets pour aller voir son premier ballet, c'est le cas de le dire.
Ah, oui.
Et la première fois, j'étais déjà allé à l'opéra, mais pour voir des opéras, des chants lyriques, vous voyez. Jamais j'avais vu un ballet.
Elle jouait d'or.
Vous n'avez jamais vu de petit rat.
Pardon.
Vous n'avez jamais vu de petit rat.
Non, mais j'en ai vu des gros.
Alors ça vous a plu?
Ah, c'était magnifique.
Avant.
Et vrai. Vous étiez habillé quand même. Smoking.
Ah bah oui, j'y suis allé à poil aussi.
Et ça vous a ému, ça vous a touché?
Oui, ému.
Il paraît que c'est où on déteste ou on pleure.
Ah non, c'est très émouvant, très beau. C'était Germain Louvet, danseur étoile.
Ah oui, c'est émouvant ça.
Louvet, il est formidable.
Non mais c'est vrai qu'un danseur étoile, quand tu le regardes danser, c'est hypnotique.
Ah oui, c'est hypnotique.
Ah bah moi je dors au ballet.
Ah oui, ces petits collants qu'ils ont là, c'est émouvant, je te jure. Hein. Moi j'aurais bien aller voir un ballet comme ça aussi.
Il n'y a pas de petits collants, ça se passe en Inde, la Bayadère.
Ils ont des saris.
Alors ils ont des magnifiques tenues.
Des draps, quoi.
Ils
ont un drap sur la tête.
Ah, c'est très coloré, alors.
Oui,
très coloré,
ah, oui.
Des décors magnifiques.
Ah, oui. Un peu bollywoodien.
Des solos, puis à un moment donné, alors il y a effectivement tout le corps du ballet qui descend petit à petit, on les voit arriver. 30, je les ai comptés, elles étaient 32, les filles.
Oh, ah, là, là,
32.
Oh, la 32.
Ah, 32.
C'est le producteur qui compte les cachets, là. 32 à la fois.
Mais vous étiez tout seul?
Comment ça, j'étais tout seul? Oui, j'avais réservé l'Opéra Bastille rien que pour moi. La Bayadère, c'est une danseuse indienne.
Ah, c'est une Bayadère, on dit?
Oui, une Bayadère.
Bah pour ça, vous savez, je suis allé souvent en Inde, hein, pas voir des opéras, et j'ai pas vu de Bayadère.
Je vous dis, c'est une Bayadère.
Et alors, c'est qui la grise à la Bayadère?
Alors,
Rosine Bachelot.
En fait, ça change tous les soirs. C'est jamais le même danseur ou la même danseuse.
Ah bon?
Ça, c'est pour dire qu'il
connaît. Ça change pas tous les soirs. Mais en tout cas, ils alternent, c'est ça que je veux dire.
Ah oui, oui.
Par exemple, si vous préférez aller voir avec François Alu, un autre danseur étoile.
Oui, j'aime bien lui, j'aime bien.
Voilà qui.
C'est quand c'est lui?
Alors, bon, moi, j'ai pas. C'est pas écrit Pariscope ici.
Et c'est lui.
Nureyev Pascan.
Bah, c'est Nureyev qui a créé ça.
Alors, justement, la Bayadère, ça a été chorégraphié par Nureyev.
Ouais.
Oui. Formidable.
Je savais ça.
Ah, je
savais pas grand chose, mais ça, je savais.
Vous voyez, j'étais de bonne humeur. Voilà, j'étais encore dans ce ballet, dans la Bayadère. J'entendais la musique hier soir en rentrant à la maison. J'ai mis la musique, je dansais tout seul. Vous voyez.
Oh, bah oui.
Je faisais mes entrechats. entre deux albums de Gueluc.
Ça, vous faites les pas de bourrée. Ouais.
Et ce matin, vous allez... j'arrive ce matin, puis je vois ces cigales.
Oh. Que des vaches sacrées.
Pour monsieur le maire qui habite Roisey-sur-Sarthe. C'est dans la Sarthe, du côté de chez vous, ça, monsieur.
Oui.
Monsieur Boulet, Roisey-sur-Sarthe. Mais on va aller beaucoup plus loin parce qu'on va suivre un navigateur néerlandais qui s'appelle Jacob Roggeveen.
Oui. C'était un collègue de Magellan.
Et le 6 avril 1722, il y a pile 300 ans, Jacob Roggeveen, le 6 avril 1722, il découvre quoi?
L'Amérique du Sud?
Le Groenland.
Ah non, il a découvert une région?
Une région, oui.
L'Océanie?
Une île, même.
Ah, l'Australie?
L'île de Ré.
Et la date devrait vous aider, évidemment.
Nouvelle-Zélande?
Madagascar.
Réfléchissez, il y a
pile... Pourquoi la date pourrait nous aider?
Est-ce que si je peux me permettre quelque chose, est-ce que vous avez déjà été sur cette île?
Jamais, moi je n'y suis jamais allé.
Vous aimeriez?
Ah oui, j'aimerais bien.
Donc vous avez fait...
Ah, c'est l'île de Pâques.
L'île de Pâques, excellente réponse.
Bravo. Oh, c'est bientôt Pâques.
Ah oui, réfléchissez à Pâques.
Vous voyez,
c'est long à l'île de Pâques.
Vous avez vu comme à chaque fois, ma question arrive à la réponse.
Quelle question?
Bah, je vous ai dit, est-ce que vous avez été sur cette île? De là, vous avez dit jamais. De là, ma mère, à côté de moi, a dit... Pas.
C'est pas du tout pour ça qu'il a trouvé. Il a trouvé parce que je lui ai dit, réfléchissez à la date.
Bah oui.
Parce que c'est Pâques bientôt, ça n'a aucun rapport avec le fait. C'est le nombre d'îles où j'ai pas foutu les pieds, on y serait encore demain, vous voyez, monsieur.
Vous pensez que c'est pas grâce à ma question?
Pas du tout.
Non, pas vraiment.
L'île de Pâques. Qui est allé sur l'île de Pâques?
Ah, j'adorerais voir. Il y a des statues en bois.
En pierre. D'ailleurs, il n'y a pas d'arbre.
Oui, en pierre de bois, oui.
Et c'est un grand
mystère. L'île de Pâques, c'est pas...
C'est là où il y a les statues.
On fera une joyeuse Pâques.
C'est au large du Chili, mais c'est loin. Hein.
C'est très loin.
On n'a jamais su qui a fait ces grandes statues.
Ah oui. Ben, elles sont arrivées là comme ça.
C'est des statuettes... Faites parler les
Incas,
des statuettes.
J'ai toujours appris que c'était les Incas.
C'est pas des statuettes, hein.
Hey, c'est immense, ça. C'est pas une statuette.
C'est immense. Hein, je crois que ça fait 10-15 mètres. Hein, c'est
très oui.
Une statuette 18,50 mètres.
C'est les indigènes qui ont fait ça.
Après les Incas,
c'est insupportable. On se croirait dans un bistrot.
Ah oui.
Et apparemment,
plaignez-vous.
C'est votre endroit préféré.
Alors. Un grog, s'il vous plaît.
L'île de Pâques a été découverte il y a 300 ans avec ses statues qui sont monumentales, pas du tout des statuettes, vous avez raison de le dire.
Oui.
On est effectivement là, tout près du Chili, dans le nord-est de l'océan Pacifique Sud. C'est la Polynésie, hein, tout simplement.
Oui. L'île de Pâques. C'est la Polynésie, oui.
Vous seriez en train de vous moquer de moi, vous, là?
Non, au contraire, je prends des notes. Regardez, je marque Pâques, statue,
alors attendez, je
Chili,
note donc.
Polynésie.
Un couple magique. Prochainement au théâtre. Oui. Avec Stevie et Jean-Luc Reichmann.
Alors vous savez, si je peux me permettre, Jean-Luc Reichmann a fait hier une annonce sur cette chaîne en disant, allez voir, pendant son émission, allez voir un couple magique.
C'est pas vrai.
Si, en direct, c'est magnifique, j'ai passé un grand moment.
Ah bon?
Alors je pense pas qu'il va reprendre le rôle.
Reichmann, hein.
J'aurais fait une farce dimanche dernier.
Ah oui, ça a surpris tout le monde, ça nous accueille.
Et bien fait, à un moment donné, il y a Stéphane Plaza qui fait disparaître, apparaître, il y a une boîte magique, quelqu'un, et puis depuis, ça fait un mois que la pièce a démarré, je me dis, un jour, je vais me foutre dans la boîte.
Je crois pas.
Et donc, dimanche dernier,
c'était mis dans la boîte.
Je me suis foutu dans la boîte. Ce couillon, il ouvre le rideau, dis donc.
Ah, il aurait dit une tarlouse, il a fait... Il a eu peur.
J'aurais le droit.
C'était moi. Un tabac, jamais le théâtre n'avait autant applaudi.
Ouais, un tabac, il voulait plus partir de ça.
Ah, mais oui, mais
on a quand même un texte, il voulait plus partir. Il a des trucs et puis
il dit ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène.
D'accord, vous avez un texte, mais c'est le mien que je sache.
Oui, on sait pas ce qu'il y a dans votre tête.
Mais vous, vous avez envie de remonter sur scène en plus.
Pardon.
Je suis sûr que vous avez envie de remonter sur scène.
Dans la boîte.
Oui, mais seul. Une question pour David Lauré qui habite Colomiers. Une question qui nous emmène en Bretagne, en Cornouailles, là où Monsieur Macron était en visite,
en déplacement
hier. Il était effectivement dans cette région du Finistère, à Spézé très précisément. Et justement, dans cette ville, ce village de Spézé, il y a un musée. Mais il n'est pas allé visiter ce musée, je crois pas, Monsieur Macron. En tout cas, on ne nous en a pas parlé dans la presse, mais quand même, c'est comme je suis, j'enquête, je recherche ce qu'il y a dans ce genre de village, dans ce genre de ville. Et à Spézet, il y a un musée original, qu'on va peut-être essayer d'appeler d'ailleurs quand vous aurez donné la réponse à cette question. Quel musée peut-on visiter à Spézet en Bretagne ?
Le musée de l'oignon.
Musée de la crêpe ?
Pardon ?
Le musée de l'oignon.
C'est pas loin, Stevie, en tout cas.
De la bite.
Pour
de
vous.
De l'ail.
des glands. Le musée du gland.
Du pénis. Non mais.
Le musée de la couille.
ça a un rapport avec le sexe ?
Non, monsieur Jean Lefebvre.
Le musée de la bicoudaine.
Non, les oignons, c'est Roscoff.
C'est végétal ?
Alors, végétal, non.
C'est issu de la mer ?
Ah non, non.
C'est une collection de...
Il y a une partie qui peut être issue de la mer.
C'est naturel ?
C'est naturel, non.
C'est typiquement breton.
Qu'est-ce que vous appelez naturel ?
Eh bien, fait créer...
Un poisson, quoi.
Qu'est-ce qui est naturel ? Moi. Qu'est-ce qui est naturel ?
Bah alors non, alors.
Ah, le musée de la bigoudaine ?
Non.
C'est un objet ?
Un objet, non.
C'est un rapport avec Bolloré ?
Non, pas
spécialement. Ça se mange, c'est une œuvre d'art ou pas ?
Ah, ça se mange, oui, ça comme vous dites.
La galette, la galette.
Sardine, le musée de la sardine.
Musée de la sardine, non, musée de la galette, non.
Le musée du poireau.
Pas le musée de la fève.
La musée de... Non, mais pensez à ce qu'a dit Stevie.
Oui, oignon.
Oignon.
Il a dit musée de l'oignon, je lui ai dit pour lui, pas loin.
Est-ce que ça a un rapport avec une orientation sexuelle ?
Un peu.
Alors ?
Le musée du God ?
Oh ! On comprend pourquoi le président a fait un détour.
L'artichaut !
Non, non.
Ah, l'asperge !
Non plus.
Du homard, du homard.
Non.
Bon, attendez, ça se mange. Qu'est-ce qu'on mange en Bretagne à part des galettes ?
Ah ben...
Ça se mange qu'en Bretagne ?
Mais non, mais ça pourrait être en Normandie aussi.
Ah, du beurre, du beurre salé.
Le musée du beurre. Bonne réponse de Bernard Mabille.
C'est ça votre rapport avec l'oignon ? Eh ben bravo alors.
Stevie a dit le musée de l'oignon, c'était le musée du beurre, c'est pas loin. L'histoire du beurre vous sera racontée à la Maison Bleue, à Spézet. C'est un musée tenu par des bénévoles, je crois, de l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois. Les spézétois et les spézétoises sont les habitants, évidemment, de Spézet. On va essayer d'appeler le musée du beurre, tiens, pour leur demander qu'est-ce qu'on peut voir au musée du beurre.
Du beurre.
J'imagine des barates, peut-être. Et pourquoi un rapport avec la mer, le beurre salé, évidemment.
Bien sûr,
évidemment, évidemment, oui.
Allô ?
Allô ? Est-ce qu'on est bien au musée du beurre, à Spézet ?
Oui.
Ce sont les grosses têtes qui vous appellent,
bonjour.
Madame. Bonjour. On vous appelle pour savoir si le président Macron, le candidat aussi, puisqu'il est candidat en ce moment, est venu au musée du beurre hier à Spézet.
Ah, il n'est pas rentré dans le musée, non.
Oh ! Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre musée ?
Alors, il y a des barates, des
qu'est-ce
moules,
que je disais ?
Enfin, il y a plein de choses.
Des moules,
les
moules. Ah oui, les moules.
Les moules à beurre. Oh.
Et voilà.
Sérieux ?
Et est-ce qu'on peut acheter du beurre ou on repart avec sa plaquette ou pas ?
Ah non, pas du tout.
Ah non.
Ah non, alors.
Ah non, c'est juste on visite et on regarde les ustensiles qui permettent à faire du beurre, c'est ça ?
Voilà, une exposition qui présente... comment était fabriqué le beurre il y a quelques années, quoi.
On va vous envoyer une montre RTL, madame. Vous pourrez l'exposer dans le musée, j'espère.
Eh ben, je transmettrai à la présidente de l'association.
Ah, parce qu'il y a une présidente.
Évidemment.
Ah, il y a présidente du beurre.
Comment s'appelle madame la présidente du musée du beurre ?
Madame Macron.
Alors, c'est madame Claire Arlot.
Eh ben voilà, on va envoyer une montre pour vous et une montre pour Claire, d'accord ?
Voilà.
Ça vous fait plaisir ?
Ben, évidemment.
Eh ben, tiens, voilà. Je signale que l'entrée est libre et gratuite, n'est-ce pas, au musée
c'est
du beurre ?
Ça.
Comment vous appelez-vous, madame ?
Christelle.
Christelle. Eh bien, écoutez, Christelle, on vous envoie donc la montre RTL pour vous, une autre pour Claire. Vous avez une sœur ?
Je vois la blague venir.
C'est fou comme on est prévisible. On vous embrasse, Christelle.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Chantal Latsou, Bernard Mabille, Stéphane Plaza, Stevie Boulet, Jean-Philippe Janssen et Christine Bravo. Allez, je compte sur vous, là, Christine, bravo, et à fort être en forme pour les questions littéraires du jour.
Ah, j'adore ce moment.
Ah, bah, c'est la meilleure, Christine.
Elle est pas au mieux de sa forme.
Ah oui, mais enfin bon, je pense que la première question est d'un niveau plutôt simple, et vous devriez répondre, je crois, en 2 secondes, pour monsieur Wilfried Brand, qui habite Condé-sur-Escaut, sous quel autre nom connaît-on Pierre-Augustin Caron.
Maupassant.
Céline.
Mais non.
Non.
Pierre-Augustin Caron.
Montesquieu.
On est au XVIIIe siècle.
Montesquieu.
Dramaturge, musicien, homme d'affaires.
Molière.
Apollinaire.
Écrivain. Non mais écoutez, Pierre-Augustin Caron.
C'est en un seul mot son pseudo ou c'est...
Oui, Pierre-Augustin Caron, on l'appelle effectivement plus généralement par sa partie.
Et c'est lui qui a voulu changer de nom.
Non, c'est son nom, Pierre-Augustin Caron, sauf que, évidemment, après...
Deux machins chouettes.
Voilà.
De Beaumarchais.
Bonne réponse de Stevie.
Ah bah ça, je savais pas.
Là. C'est bon. Marchais.
Les noces de Figaro.
Et ben ça, je ne savais pas.
Le mariage de Figaro, le barbier de Séville. Bravo, Stevie. Beaumarchais. C'est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Dans la liberté de blâmer.
Il l'avait sur le bout de la langue, mais c'est pas revenu.
Non, mais là, je suis très étonné parce que je pense qu'on le connaît que sur le nom de Beaumarchais.
Ah, mais pas du tout. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Et Stevie vous rappelle la phrase. Allez-y, Stevie.
Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.
Voilà. Oh là 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 là.
C'est un bel intelligent.
C'est pas ça, Figaro aussi, Figaro là.
Mais donnez-lui un Prozac. Hein.
Figaro là. C'est pas ça.
Dites donc, quand je pense que les questions littéraires trouvent réponse grâce à Stevie, ça vous donne le niveau du jour. Pour Cécile Boyer, qui habite Lyon dans le Rhône, pouvez-vous me dire à quel écrivain français on doit ce roman, publié en 1968 aux Presses de la Cité. Qu'est-ce qu'il y a? Vous marmonnez dans votre coin?
Je dis, alors, 20e siècle, attends, mets en ordre ta tête pour les écrivains que tu connais du 20e. Ça y est, ils étaient prêts.
On n'est pas rendu. Hein. Alors,
je vais vous dire, j'ai tout classé dans ma tête, ça va aller très très vite. Allez-y. Ouais,
un romancier français qui, en 1968, a publié La nuit des temps, un des grands ouvrages de science-fiction.
C'est pas Barjavel ?
Pardon ?
C'est pas Barjavel ?
Oui, c'est Barjavel. Mais oui, c'est Barjavel.
Je suis pas conne.
Mais oui.
Attendez, c'est Barjavel.
Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Barjavel.
René Barjavel. Ouais. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Ah, on a été touché par la grâce de Dieu.
Ça, la littérature, c'est pour les deux tapettes. Hein.
Ils ont ouvert une bibliothèque au Banana Café.
Tu l'as lu.
Je l'ai lu, oui, Barjavel, la nuit des temps.
La
oui.
nuit des temps, René Barjavel. Alors, il y en a un qui nous trouve Beaumarchais, l'autre Barjavel.
Moi, je trouve ça génial.
C'est un festival aujourd'hui.
Oh là là, bah, alors là, je n'en reviens pas moi-même. Oui. Pour Léa Fabricius, qui habite Falampin, c'est dans le Nord.
C'est dans le Nord, oui.
Falampin.
Oui, parce que. Il y a l'air de Falampin, c'est une air où ça drague, je le sais.
Ah oui ?
Ah oui, je m'arrêtais souvent.
Ah bah
souvent.
Oui, tu connais très bien alors.
Et je m'arrêtais souvent, et c'était, bah, j'avais toute la liste des airs où se passe des trucs, tu vois. Et
c'est
Falampin, c'était sur le chemin entre
Lille. Attendez, moi j'aimerais savoir, parce que, pardon.
C'est génial.
Là, j'aimerais que vous me racontiez.
Oui,
parce que moi, je vous jure, c'est vrai, j'ai jamais fréquenté ce genre d'endroit.
Toutes les airs où ça suce, je connaissais
vous
pas.
Vous êtes trop connu.
Je peux même pas imaginer comment ça se
passe.
Comment ça se passe sur une aire d'autoroute alors?
Bah, comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que ça n'existe plus beaucoup. Ah. Parce que maintenant, il y a les réseaux, il y a les applications.
Alors,
mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Il fallait bien aller rencontrer les gens. Et où c'est qu'on les rencontrait les gens? On les rencontre pas comme
ça. Mais comment on sait que quelqu'un cherche quelque chose?
Des appels de
okay. Ça se voit.
Vous voulez ma technique à moi?
Oui.
Alors moi, je m'arrêtais sur l'air et tu vois bien s'il y a de l'agitation, qu'il y a plein de camions, machin. Tu dis, comment à 3h du matin, il y a autant de gens qui ne vont pas tous faire pipi quand même, tu vois? Et tu vois bien que ça se fait des appels de phare.
Ouais, c'est des appels de phare, oui, moi j'ai jamais entendu.
Alors moi je m'arrêtais, j'avais une petite Opel Corsa, tu vois, une vieille Opel Corsa. Et que ma maman, alors je m'arrêtais sur comme ça, il était 2h du matin, et je dis bon, on va regarder, mais souvent t'es déçu aussi parce que il y a pas que des canons hein, qui viennent te démarcher hein, toi.
Mais tu vas quand même.
Alors tu dis, moi je faisais ma princesse, je dis non merci, non merci, non merci, tu vois. Ah, tu te balades un petit peu, tu marches, il y a des buissons, il y a des arbres, c'est pour ça. Maintenant à Falampin, ils ont rasé tous les arbres, on peut plus y aller. Hein. Mais avant il y avait des grands arbres et on se cachait derrière et il se passait des trucs. Ou alors tu marches et t'entends. Tu te doutes bien.
Oh
tu doutes bien que c'est pas un hérisson, hein.
Ah, il naît du vice.
Enfin, quand même, j'imagine que sur ce genre d'aire d'autoroute, il n'y a pas que des routiers qui... Enfin, il y a des routiers qui...
Eh ben, les gens qui viennent sans savoir ce qui se passe, quand ils voient le micmac et le manège, je peux dire qu'ils reprennent vite la voiture et ils repartent. Hein. Ils sont pas venus pour faire le plein, hein. C'est pas la même pompe, hein.
Ben non, moi je suis arrêté sur l'autoroute avec Michel, on a dormi.
Tu vas pas sur la place du village pour...
Il y a plein de gens qui ont frappé au carreau. Hein. On aurait pu avoir une nuit magnifique.
Donc et... ma question littéraire.
La troisième.
Et c'est vrai.
Pour ben Léa oui. Fabricius, qui habite Falampin, donc.
Falampin.
Célèbre aire d'autoroute.
C'est à côté de toi.
Oh, j'espère qu'ils mettront une plaque à mon nom.
Oh, à l'autoroute Janssen.
À qui doit-on cette hagiographie intitulée La vie de Rancé, hagiographie, biographie consacrée.
Pardon. Puis-je poser une question oui. C'est quoi une hagiographie?
Une hagiographie, c'est une biographie très élogieuse, voyez-vous.
Ah, c'est une hagiographie.
À l'avantage de quelqu'un. Ça vous va, ça?
Hagiographie. Je le note.
C'est pour Racine.
Alors,
c'est attendez. Racine.
Ça n'a rien à voir avec Racine, c'est Rancé, la vie de Rancé.
Ça, c'est la question?
Oui, c'est fini, là, vous voyez.
C'est en quelle époque, Laurent? Quelle
je
époque
vous demande qui a écrit la biographie, la géographie de cet abbé Armand Jean le Boutillier de Rancé, hagiographie, texte biographique, qui s'appelle La vie de Rancé.
Il donc a vécu en quelle année?
Auteur.
Ça a été publié en 1844.
Il est connu, cet auteur?
Ah, très, très connu.
Céline.
Boileau.
Céline. Non, non, non.
Céline.
Non.
Donc ça fait
Montesquieu.
Montesquieu.
Non mais alors là on est au bout du bout. Hein.
Montesquieu.
On a l'impression de régresser.
C'est pas le nom et c'est pas le siècle. Mais comment vous faisiez à l'école, Plaza?
J'étais très bon en sport et très bon en mathématiques. Voilà.
Mais comment ce gars-là a pu avoir je sais pas combien d'agences?
Je les ai encore, sauf s'ils ont été vendus.
Moi je ne comprends pas. Je ne me l'explique toujours pas. J'essaye de comprendre et de percer le mystère Plaza. Il est difficilement perçable, hein, mais je trouverai. Je me dis, c'est pas possible d'être aussi con.
Combien d'agents? 702.
702,
oui. Mais parce que j'ai plusieurs personnages dans ma
l'autre,
tête.
L'autre, il est assis sur un empire, hein.
Vous voyez, j'ai plusieurs personnages dans ma tête. Alors, des fois, je sors le personnage érudit.
Je sais qui c'est.
Des fois, je sors le personnage un peu con pour la lune.
C'est Chateaubriand.
Des fois...
Pardon?
C'est Chateaubriand.
Ouf! Bonne réponse de Christine, bravo! La vie de Rancé, c'est signé Chateaubriand. Je vous emmène à Saint-Michel en Charente maintenant. Et là-bas, dans ce petit village de Charente, Saint-Michel, eh bien, les enfants vont à la cantine gratuitement. Pour quelle raison?
Ah, c'est le maire qui a décidé ça?
Non, c'est pas le maire.
C'est un donateur, quelqu'un qui a laissé un legs.
C'est-à-dire?
En mourant, il a dit, je voudrais que la cantine
pas
soit...
Pas en mourant, non.
En vivant.
En vivant.
Alors,
en vivant.
C'est un gagnant de l'euro-million qui a décidé de donner son argent à la cantine.
C'est le gagnant de l'euro-million qui a donné son argent pour la cantine de la commune.
Bravo.
C'est bien, dis donc.
Ah, j'avais pas, d'accord.
Bonne bravo. Réponse de Stevie Boulet. Une autre question pour Fabrice Prébande qui habite Saint-Mexant-de-Bogne, c'est dans les Deux-Sèvres. Dans quelle ville réclame-t-on souvent, les touristes en tout cas, où se trouve le 52 rue du Général de Gaulle?
C'est tiré d'un bouquin.
Non.
Il s'est donc passé quelque chose au 52 avenue Général de Gaulle, quelqu'un de célèbre a vécu.
Alors, j'ai pas dit avenue, c'est rue du Général de Gaulle.
Ah, la rue du Général de Gaulle.
C'est un film, Laurent. À Lille.
C'est en France.
C'est dans un film.
Alors, ça existe dans un film, mais c'est la réalité aussi.
Jean Gabin est né là-bas?
Non.
Général de Gaulle à Lille?
Non.
C'est un rapport avec Maigret?
Pardon.
C'est un rapport avec Maigret?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
C'est un rapport avec la politique.
Dans quelle ville les touristes réclament-ils souvent? Où se trouve le 52 rue du Général de Gaulle?
Ok, c'est une ville française.
Oui, française, oui.
C'est pas le...
Du sud?
Du sud, non.
C'est le docteur Petiot, c'est la maison du docteur Petiot.
Pardon.
C'est la maison du docteur Petiot.
C'est à Paris, la maison du docteur Petiot.
Ah, c'est la maison d'Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières?
Mais non.
Non.
C'est Salacrou au Havre?
Non plus.
C'est la maison de Léonard de Vinci là-bas, dans l'Indre-et-Loire?
Non plus.
C'est un serial killer ou pas?
Non.
C'est un serial killer?
Non.
C'est la maison des Macron au Touquet?
Non plus.
Il s'est passé un événement?
C'est la maison de Chateaubriand en France?
Oh là là.
C'est une maison qui s'est passé un événement dedans?
C'est un auteur, une femme?
Un crime?
Non, c'est
un meurtre?
Non.
Est-ce que ça serait pas la maison de Sigmund Freud?
Sigmund.
Sigmund, oui, la Sigmund du général de Gaulle.
C'est rue du général de Gaulle.
Ouais. Oh, je me pose la question. Ah, oui, oui. D'avoir une lumière.
Ah, oui, bah, oui,
est-ce
oui.
que ça serait pas la maison de Sigmund Freud?
Non, bah, elle vient de s'éteindre ta lumière.
Il sait même pas le dire.
Sigmund Freud.
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 Sigmund Freud.
Freud.
Ça colombait les deux églises?
Non.
Non. C'est dans un petit village?
Oui, oui, c'est un village.
Dans le sud?
Dans le sud, non.
Ah oui,
c'est et un... où alors?
Ah, c'est pas à Colombey-les-Deux-Églises?
En non, Bretagne,
non.
En Bretagne.
Je vais te dire non.
Non, non, c'est pas en Bretagne. Non.
C'est dans l'Hérault. Dans l'Hérault.
Dans la maison de Marcel Pagnols?
Non, non.
C'est un auteur?
Un auteur. Alors, un auteur, non. Non,
dans,
non.
Dans l'Est?
Ah.
Non, en région parisienne.
Donc c'est un, petit un petit village très touristique.
La maison à Antony, Antony 92?
Non, non, dans 95.
Ah, c'est pas là qu'il y a le machin, la maison du peintre. Là,
ça,
la maison du peintre qui a son jardin. Son jardin.
Baptiste.
Oh. Monet. Non, Monet.
C'est Van Gogh à Auvers-sur-Oise.
Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui.
Ah oui, on voit la chambre.
Au 52 rue du Général de Gaulle se trouve l'auberge Ravoux qu'on peut visiter. Auberge dans laquelle Van Gogh avait une chambre les derniers 70 jours de sa vie. C'est là où il est mort aussi. Il s'est tiré une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890.
Il avait déjà plus d'oreilles.
Il s'est éteint. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Il s'est suicidé après s'être coupé l'oreille.
Ah ben, il s'est pas entendu mourir, hein.
Il est enterré là-bas avec son frère.
Ah oui.
Ah bon, il y avait un frère?
Ah oui, bah, c'est bah, Théo. Bah, la famille Van Gogh, oui.
Ah, je sais pas.
Dans le jardin?
Je le note.
Dans le cimetière.
L'autre, il vient prendre ses cours. Vous pouvez pas les prendre par correspondance?
Ah non, non, non. Je préfère être avec vous. Van de Gogh.
Van de Gogh.
Van de Gogh.
Mais j'ai l'impression d'avoir...
C'est
d'avoir
horrible.
Un... Non, mais tu sais quoi? C'est j'ai l'impression horrible. Que je fais le 3 des sous-doués.
Bah, ils ont bien réussi, les sous-doués. Regardez Daniel Auteuil. Vous êtes le nouveau Daniel Auteuil?
Ah ouais, non, j'ai plutôt l'impression d'être Maria Paco.
RTL, le livre du jour.
Ah, le livre du jour s'appelle « Café sans filtre ». Il est signé Jean-Philippe Blondel. Et dans ce café, il y a quelqu'un qui prend des notes, qui observe les autres clients du café. On en parlera avec Jean-Philippe Blondel dans un instant. Et ce café, d'ailleurs, il porte un nom, c'est le Tom's. Et c'est pas par hasard, évidemment, que l'auteur, Jean-Philippe Blondel, a appelé ce café le Tom's. Ça lui rappelle, évidemment, et vous peut-être aussi, une chanson qui était interprétée à cappella, mais à cappella par qui?
C'est la chanson de Tom Sawyer?
Non, taisez-vous.
Elle était chantée à Capulco, c'est ça?
Non, à
cappella.
À cappella. Pas à Capulco, à cappella.
En Italie, en Italie.
Ah, c'est la goutte.
Mais quand je pense qu'il y a des jours, j'ai Yann Moix, Paul Elkarat.
Ouais, mais...
Je vais vous donner le titre parce que ça n'a pas l'air de vous inspirer quoi que ce soit. Tom's Dinner, voilà le titre de la chanson qui date.
C'est un restaurant.
Qui date des années 80, 86, 87.
C'est une chanson française.
C'est un français qui chante.
Ce n'est pas un français.
Est-il vivant ce chanteur?
Ce n'est pas un chanteur.
Une chanteuse.
C'est une chanteuse.
C'est pas Liza Minnelli.
Elle est jazz. Elle fait du jazz.
Elle vit encore. Elle est autrice, compositrice. Interprète.
Elle fait du jazz.
Patti Smith.
Patti Smith.
Suzanne
Marianne
Vega.
Marianne Faithfull.
Suzanne Vega.
Suzanne Vega. Oh, oui. Excellente réponse. Excellente réponse de Christine. Écoutez cette chanson que tout le monde connaît.
Bah oui.
Tom's Dinner, c'est cette chanson qui a eu un énorme succès signé Suzanne Vega. Et c'est bien pour lui rendre hommage que vous avez appelé votre café chez Tom's. Jean-Philippe Blondel, bonjour.
Bonjour. Oui, oui, c'est pour lui rendre hommage. Et puis parce que ça fait 40 ans que j'essaye de combler les blancs de cette chanson.
Il faut dire que votre livre se passe dans un café, d'où le titre, un café sans filtre, qui s'appelle, je l'ai dit, chez Tom's. Et que, au fond, oui, c'est vrai que ce sont plusieurs vies qui se croisent. Et que peut-être vous allez nous donner la solution à ces blancs qui se trouvent dans la chanson, alors.
Oui, c'est ça. Dans la chanson, elle raconte l'histoire d'une femme qui dessine dans un café et qui observe ce qui se passe dans le café. Et moi, je vais raconter son histoire, l'histoire de la narratrice, et puis l'histoire des différents clients qui viennent et qui repartent, et puis du patron, du serveur, de l'ancienne patronne.
Un café qui rouvre après le confinement, parce que...
Exactement. exactement.
Vous-même, il faut le dire, vous aimez écrire dans les cafés, vous avez dû être très malheureux pendant les deux années qu'on vient de vivre.
Bon, on l'a tous été, hein. Je pense qu'on a... Je pense qu'alors là...
Mais encore plus ceux qui fréquentaient les cafés.
Oui, mais vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait des gens même qui réservaient pour les terrasses des cafés pour qu'on les rouvrirait, etc. Ouais. C'est culturel, hein, c'est français, c'est tellement français.
Combien de personnages dans ce café sans filtre?
En fait, il y en a 9. Il y en a 4 qui sont mes piliers de bar, qui sont le serveur, l'ancienne patronne, le patron et celle qui dessine. Et puis, il y a 5 clients.
5 clients, et oui. Elle, Chloé, elle est au fond du café, elle oui. décrit ce qu'elle voit.
Oui, elle décrit ce qu'elle voit, elle raconte, et puis elle écoute les conversations, elle écoute ce qui se passe, mais ils interagissent quand même les uns avec les autres, hein, parce que dans un café, enfin, je sais pas comment c'est vous, mais moi, j'arrête pas d'écouter des conversations de mes voisins et d'essayer d'imaginer la vie qui va avec.
Ah oui, il y a des écrivains qui adorent écrire dans les cafés parce qu'ils adorent observer, d'autres qui ont besoin de calme, ce qui n'est pas toujours le cas dans un café. Vous, ça ne vous dérange pas le bruit et la vie autour?
Alors en fait, j'observe dans les cafés. Je prends des notes, j'observe, mais écrire, il faut que ça soit au calme.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous prenez des notes, mais en fait, vous écrivez une fois rentré chez vous ou le lendemain matin.
C'est ça. Ma femme déteste aller au café avec moi parce qu'elle dit que je fais pas attention à ce qu'elle dit, en fait.
Café sans filtre, c'est le nouveau roman de Jean-Philippe Blondel. Je dis nouveau parce que vous en avez écrit quelques-uns. Là, il est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Je note que vous avez pas mal changé d'éditeur, d'ailleurs, dans votre carrière littéraire. Pourquoi à chaque fois vous les rencontrez dans un café différent?
C'est ça. J'ai à peu près autant changé d'éditeur que Christine Bravo de chaîne.
C'est drôle.
Vous avez commencé aux éditions Delphine Montalent. Après, il y a eu Robert Laffont. Après, il y a eu Bûcher Chastel.
Oui.
Actes Sud. Et vous voilà maintenant à l'Iconoclaste.
Oui. Pour une renaissance. Allons-y.
C'est-à-dire
une réouverture des cafés. Allons-y.
Pour la réouverture des cafés, alors on va conseiller votre livre « Café sans filtre ». C'est le nouveau roman, un vrai roman, avec des histoires et des personnages comme on les aime. C'est signé Jean-Philippe Blondel. Puis c'était l'occasion aussi pour nous, grâce à vous, de réécouter Suzanne Vega. Ah oui. Merci beaucoup. Une question pour Antoine Courreau, qui habite Challans, en Vendée. Non, pas littéraire.
Sportive.
On va rester dans la musique. On vient d'évoquer Suzanne Vega. Mais c'est une autre chanson maintenant que je vous demande de retrouver pour Antoine Courreau qui habite Challans, Vendée. Une chanson qui démarre par cette première phrase, ce premier vers. Ce soir, nous sommes septembre. Quelle célèbre chanson commence ainsi?
Oh là là, c'est pas Barbara, ça?
Barbara, non.
Ben ça serait pas Jacques Brel?
Non.
Aznavour, Reggiani?
Un homme?
Reggiani, non. C'est une femme qui chante.
Ah oui.
Si on entend aussi la voix d'un homme dans cette chanson.
Dalida?
Non, non.
Romy Schneider?
Pardon?
Romy Schneider et Claude...
Oui.
Un monsieur... comment il s'appelle?
César et Rosalie, c'est dans César.
Les choses de la vie.
Alors,
c'est les choses de la vie, mais le monsieur, c'est un monsieur qu'elle les cheveux en arrière plaqués, j'adore la vidéo.
Piccoli.
Bonne réponse de Stevie Boulet.
Elle est belle. Hein.
Ce soir, nous sommes septembre.
Si on pouvait entendre plutôt Romy Schneider.
Oui, merci. Hein.
Ah ouais, parce que là,
c'est Romy Schneider dans l'état où elle est actuellement.
Oh,
non, ça, c'est pas joli de dire ça.
Les choses de la vie, c'est magnifique, évidemment, un film de Claude Sautet. Et d'ailleurs, la chanson, curieusement, qu'on connaît, n'est pas du tout dans le film. Non. Elle a été écrite pour le film, mais Claude Sautet n'aimait pas cette chanson et donc il ne l'a pas intégrée dans le film. Elle est passée ensuite à la radio, on entend Romy Schneider, c'est une chanson écrite par Jean-Loup Dabadie qui avait écrit aussi le scénario du film et les dialogues évidemment du film de Claude Sautet, Les choses de la vie avec Léa Massari, Jean Brouise, Michel Piccoli et donc Romy Schneider qui chante et ça commence bien par Ce soir nous sommes septembre.
Ce soir nous sommes septembre. Et j'ai fermé ma chambre, le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus.
c'est magnifique.
Oh, oh, là, 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 là.
Et puis alors c'était une vidéo en noir et blanc. C'était le clip est magnifique. En fait, c'est même pas un clip. S'ils sont sur un plateau télévision, ils interprètent la chanson et c'est ça qui reste sur Internet aujourd'hui.
Et alors, en tout cas, vous pouvez aller à la Cinémathèque française. RTL est partenaire de l'exposition Romy Schneider qui dure jusqu'au 31 juillet avec des extraits. Ah, on entend cette chanson, hein, d'ailleurs, la chanson d'Hélène, ça s'appelle. Mais il y a des tas d'expos, des tas de photos, je veux dire, et des tas d'archives concernant Romy Schneider à la Cinémathèque jusqu'au 31 juillet en partenariat avec RTL. Les choses de la vie, c'est le titre du film, mais la chanson d'Hélène n'est pas dans le film. On réécoute encore un peu.
Ah oui, c'est beau.
Dans la maison, j'ai aimé quand nous vivions comme le Plaza.
C'est toujours ça que Plaza n'aura pas.
Qui avait composé la musique, Laurent ?
Ah, j'ai pas la musique, alors vraiment, vous voulez m'emmerder jusqu'au bout ?
Non.
Il y a moi qui pose des questions.
Au pire.
La musique est composée par Philippe Sard, monsieur Madinier.
Ah, bah oui.
Déjà.
Cette musique est très, très belle, mais moi, elle me fait pleurer, je la trouve triste.
C'est beau de pleurer. Il y a des trucs de psychologues qui disent que c'est bien de pleurer devant un film qui est émouvant. C'est bien de pleurer en écoutant une chanson.
D'ailleurs, je vais vous dire, depuis le début de cette émission, j'en ai eu plusieurs fois en vie et je me retiens.
D'où l'expression pleure qui sera moins.
Si le rire est le propre de l'homme, le sale n'est pas de pleurer.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Moi, la dernière fois que j'ai pleuré.
Oh là là!
C'était pourtant brillantissime!
Ouais, c'était très beau ce que t'as dit.
Un peu trop dans ta bouche.
La dernière fois que j'ai pleuré, c'était à l'Opéra Bastille, moi.
Ah oui, devant la Frigidaire!
C'était très beau, la Bayadère.
Ah oui, c'était à la Bayadère.
Une cuvette de larmes.
Oh non, moi, le film qui m'a plus fait rire, c'est Couleur pourpre de Steven Spielberg.
Non, pleurer. Pleurer,
bah oui.
Mais t'as dit rire.
Ah non. J'avais dit rire.
Ah non. Non, le film qui m'a plus fait pleurer, c'est Couleur pourpre.
Ah oui, mais ça.
Il se prend pour Zemmour.
Oh non, quelle horreur.
Eh, il tape ta sœur plus qu'en rire ou pleurer, hein.
Non, mais Couleur pourpre, je sais pas si vous l'avez vu, mais.
Ah oui, moi
il t'arrache les larmes.
Ah ben oui.
Quand les deux sœurs se retrouvent après 70 ans.
Quand il arrive vous, puis Goldberg, oh là là.
Oh là là. Et Oprah Winfrey.
Ah mec, ah oui, qu'elle claque sa poêle dans la gueule, là.
C'est Sister Act que vous me décrivez.
Non, c'est le plus beau film de Spielberg.
Plus beau film qui me fait pleurer, c'est Va vie et devient.
Très beau film.
Tu peux est-ce que tu peux le dire en français?
Magnifique film.
Cri à la fin, voilà, bah, à chaque fois, mais je pleure pendant deux heures.
Je l'ai vu qu'une fois, mais je le verrai volontiers. Va vie et devient.
De quoi ça parle?
C'est un jeune enfant qui a été abandonné, qui va quitter son pays et qui va. Non, c'est magnifique. Magnifique.
Et ben alors, regarde ensemble ce soir si tu veux.
Moi, c'est Philadelphie. Moi, c'est Philadelphia.
Ah oui.
Je peux pas ce soir. Je regarde le replay de Marie au premier regard.
Oh, sérieux là?
Alors, vous n'avez pas
dit.
C'est
Nuit Blanche à Seattle.
Ça fait pas pleurer.
Moi, je suis sensible. Excusez-moi, ce petit garçon, ce Tom Hanks là, qui fait tout pour sauver son père. Cet homme là, qui ils vont revenir la plus building là. Vous voyez?
L'Empire State.
Il n'arrive même pas à parler.
Parce que c'est les larmes qui arrivent.
Vous jouez ce soir?
Ah oui, mais
vous m'inquiétez, hein.
Oui, mais quand je suis sur scène, je suis un autre homme.
Oui.
Appelez liaison.
Oui, parce que déjà, c'est pas moi qui ai écrit le texte, voyez-vous.
Ah bah oui,
je suis un autre homme.
Les liaisons dangereuses.
Horrible, je suis un autre homme.
Non, mais vous êtes dans un sale état, plein d'heures. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit?
Ça n'a rien à voir. Je me transforme, vous savez, quand je suis sur scène, comme un chômage.
Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit?
Eh bah, cette nuit, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous le dire.
Ça a une vie de passion, hein.
J'ai beaucoup travaillé jusqu'à 2h du matin.
Oui.
Je vais vous le dire. J'ai été obligé de corriger mon livre Bienvenue chez vous, by Stéphane Plaza sur la déco. J'y comprenais rien.
Tu corriges ton livre?
Ben oui, sinon c'est pas mon livre.
Ah non, si vous voulez que les gens, si vous voulez que les gens vous reconnaissent, laissez les fautes. si vous voulez qu'on croit que c'est vous qui l'avez écrit, ne le corrigez pas surtout.
Faut que tu restes le même Tom.
Vous voyez, c'est assez. On attaque quelqu'un qui travaille jusqu'à 2h du matin, hein, vous voyez.
Ah oui, c'est dur. Non,
vous c'est pas un livre, c'est un magazine, ça.
C'est quand même des revues, il faut les corriger, c'est un livre.
Ah, vous parlez de la revue qu'on achète en kiosque, là. Mais c'est pas un livre, ça.
C'est une revue, il faut la corriger.
Pour lui, si.
C'est un livre.
Bah non, c'est une revue.
Tu vois, le gars, il veut impressionner une gonzesse.
Il l'amène, il dit,
attendez, je vais vous montrer ma bibliothèque. Il y a tous les télés 7 jours.
Non mais attendez, mais
exactement ça.
Vous chipotez.
Vous l'avez déjà lu, mon encyclopédie.
Vous utilisez un synonyme.
Je trouve ça mignon. Je vais vous dire, je trouve ça mignon parce que ma maman, c'était pareil. Ma maman, elle avait, on achetait. Alors d'ailleurs, on n'achetait pas, on achetait les poches, nous.
Oui.
Mais on échangeait avec les 7 jours avec les voisins de palier pour avoir les deux.
C'est-à-dire que oh là là, c'est Zola.
Oui.
Oh, c'est Zola.
Ben oui.
C'est la vérité. Je vous raconte mon enfance, c'est la vérité.
Moi, j'aimais bien que les poches.
Une fois que la semaine était terminée, on mettait télépoche sur le paillasson de la voisine d'en face. Et elle nous mettait télé 7 jours.
Ah, vous parliez pas.
Mais le pire, c'est que c'est vrai, à la fin, c'était fâché, mes deux mères. Enfin, mes deux mères, plutôt, c'était pas ma mère. Mais elle s'était fâchée, elle se parlait plus, mais on continuait quand même à échanger télépoche avec télé 7 jours. C'était la guerre froide.
Ah ouais, ouais.
Génial.
Vous allez se faire pleurer.
Et ben, ma mère, elle disait, pose le livre sur la table du salon.
Eh oui, alors, je ressemble à votre mère,
vous
voyez.
Eh oui, c'est pour ça que quelque part...
Je vous touche, au fond de vous.
Me touchez pas trop, quand même. Même ma mère, elle me touchait pas. Une question pour Karine Massé, qui habite Chaland. Ah ben, une question qui va vous faire plaisir, monsieur Janssen, parce que ça y est, on part à bord d'un avion.
Ah!
Entre Seattle et Phoenix.
Oui. Ouais, en les États-Unis.
Oui,
On se doute bien que c'est pas en Angleterre.
On sait pas avec Chantal.
Non, c'est vrai, je le savais.
Elle était à l'ouest, elle savait pas qu'on était aux États-Unis.
Ne parlez pas de Chantal en son absence.
Nuit blanche.
Ah, ça fait drôle. Il y a un monsieur hier qui m'a dit, même quand vous dites rien, vous êtes drôle. Alors maintenant, je ne dis plus
mais
rien.
À la radio, moins.
Ouais,
donc, je reviens dans mon avion. Enfin, c'est pas mon avion. Entre Seattle et Phoenix, une plainte a été déposée. Un homme est banni à vie.
Ah oui.
Banni à vie. Il est sur liste noire, on appelle ça.
Qu'est-ce qu'il
a
fait ?
On appelle ça liste noire.
La blacklist, oui.
La blacklist. Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ce que je vous demande.
Ah, il avait des fatulences ?
Non. Qu'est-ce qu'il a fait à bord de cette...
Il s'est enfermé dans les chiottes.
Non.
Il s'est tapé l'hôtesse.
Il a tapé l'hôtesse avec un poisson.
Non, ça c'est Jean-Luc Delarue.
Oui, merci.
Jean-Luc Delarue, il avait donné des coups de saumon. Oui.
Voilà.
Il a fait pipi dans une bouteille.
Mais ça c'est la légende.
Non,
il a pas donné des coups de saumon. Regardez-moi bien, c'est vrai, monsieur.
Mais je le sais, c'est un avion Air France.
Alors pourquoi tu dis que c'est la légende ?
Il a mis une main au cul à l'hôtesse. Le steward est venu défendre l'hôtesse. Il a mordu son oreille. Il est où le poisson là-dedans ? C'est comme ça que Van Gogh a perdu l'oreille.
Non, franchement, en plus, je vous prie de respecter quand même la mémoire des saumons.
La mémoire des saumons.
Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fait pipi dans une bouteille comme Depardieu ?
Non. On va faire la liste des stars à bord.
C'est important. Depardieu, il n'a pas fait pipi dans une bouteille.
Ah non, il a pissé sur la moquette.
Sur la moquette.
Ah, de l'avion ? De l'avion ?
Oui. Parce que ça a débordé.
Parce qu'il ne pouvait pas se lever parce qu'il était
turbulent.
Il a dit j'en peux plus. Elle a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas se lever parce que nous, on est formatés. Hein.
Ouais.
Si c'est allumé, on ne fait pas lever les gens, surtout pas.
Oui.
Même s'il dit je vais vomir, je suis en train de mourir. Il dit oui, mais c'est turbulent, ça ne peut pas bouger. J'ai une idée. Est-ce qu'il n'aurait pas. Cet homme-là donc, a été banni à vie, c'est ça ?
Oui.
Il n'aurait pas.
Ça vient de se passer, là, le 4 avril.
Est-ce qu'il a révélé le code de la porte d'entrée ?
Ah non.
Comme avait fait Jean-Philippe Janssen.
Ta gueule !
Il a voulu.
Il n'a pas fait ça quand même.
Si, toute la flotte mondiale a dit
arrêtez de réactiver ce truc-là, ça fait un poteau. Ça suffit maintenant. Parce que moi, j'ai le nouveau
code. C'est un avion américain.
Il a voulu piloter.
C'est un avion américain.
Et Stevie qui dit toute la flotte mondiale.
Donc c'est pas ça.
Écoutez, oui. C'est des Américains, ils sont hyper coincés du fion.
Il a essayé
d'ouvrir
une porte.
Soit le mec il s'est pignolé.
Oui. Bonne réponse de Christine, bravo.
Bravo.
fait-il ?
Eh ben, je vais dire.
Parce que les Américains, voilà.
Si j'avais dû mettre sur Blacklist tous les mecs que j'ai vu se pignoler, ben, il n'y aurait plus personne dans les avions.
Ah ben, justement, vous allez me dire, je vous raconte l'histoire. Ça vient de se passer, hein, c'est aux États-Unis.
Oh, ah oui.
Le week-end dernier, le rapport de plainte indique que Monsieur McGarity a été cueilli par la police lorsque son vol a atterri à l'aéroport à Phoenix. Il est accusé par sa voisine de vol de s'être masturbé à côté d'elle.
Oui.
À au moins, dit-elle, 4 reprises pendant le vol qui durait 3 heures.
Ah bah, ouais, c'est long, 3 heures.
Monsieur McGarity n'a pas nié les faits, mais il a prétendu ne pas avoir pensé que ce comportement poserait un problème à sa voisine.
Oh.
Il indique même avoir demandé la permission à sa voisine.
Ah, je peux me branler.
Je peux me branler, oui. Non.
Non, mais sérieusement.
Et il n'a pas, dit-il, compris sa réponse.
Elle a fait non, non, oui, non, oui.
Monsieur
non.
McGarity était assis sur le siège 11F.
Sur l'accoudoir.
Et la dame était sur le siège 11E.
Ah bah écoutez, oui.
Peu après le décollage, et alors que l'avion était déjà en vol, Mr. McGarity a exposé son pénis en baissant son pantalon et son short et a commencé à se masturber.
Elle appelle l'hôtesse.
La passagère a eu le temps de prendre en photo son voisin.
Oh.
Le laisser se masturber 3 fois à côté d'elle sans réagir et pas appeler l'hôtesse.
Non, justement, elle a fini par appeler.
Bah si, elle a pas osé au début.
Elle a appelé un membre de l'équipage.
Oh, un membre actif, oui.
Elle aurait dû prendre le membre qui était à côté d'elle.
Un membre actif.
C'est dingue.
Attendez.
Et alors, dit-elle, puisqu'elle a évidemment été interrogée par les agents de police, il s'est masturbé à plusieurs reprises, à 4 occasions distinctes, en utilisant, dit-elle, à la fois sa main gauche et sa main droite.
Ah, il a envie d'aller sans force.
Non, mais ça veut dire quand même qu'elle regardait.
Bah oui.
Ah ouais. Il y a quelqu'un. Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un.
Qu'elle a pris en photo.
Il y a quelqu'un qui se masturbe à côté de toi. Tu détournes le regard, c'est la moindre des choses.
Ou tu le suces.
Mais enfin, tu l'aides. Tu l'aides.
Bah ça dépend.
Tu prends ça comme une invitation, tu fais « Ah, une turbulence
!» Ah bah lui, tous les prétextes sont bons.
Oui, mais elle voulait peut-être pas, si justement.
Et là, t'as le gars qui te fait sucré ou salé.
Ah. Oh, c'est ça, là. On en va choquer les auditeurs.
Non, mais monsieur, ça arrive souvent, alors.
Ah oui, mais et les masturbations les couples qui font l'amour.
Ah oui.
Bah oui. Alors qu'ils mettent une couverture sur eux pensant qu'on les voit pas, mais qu'on voit une couverture au milieu de l'avion qui fait comme ça. On se doute bien que c'est pas un fantôme, hein.
Ça arrive souvent, ça.
Bah oui, ça arrive. Ou alors, la dernière rangée de sièges dans l'avion, c'est là où il y a un peu plus d'espace en économie. Et donc, les gens, ils s'insèrent en dessous, c'est comme un petit tunnel.
Non.
Et ils font l'amour là en dessous.
Oh, oh, souvent,
mais comme des lapins, hein. Ah oui, on fait la chasse.
Mais tu connais tous les coins, toi.
Ah, bah,
les aires d'autoroute.
Le pire, c'est les avions sur les aires d'autoroute.
Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Patrick Lacoste est un Saint-Médard-en-Jal. Bonjour, Patrick.
Patoche.
Vous êtes en Gironde. Patrick, que faites-vous dans la vie?
Oui, bonjour à tous. Je suis retraité.
Ah, retraité de quoi, Patrick?
De l'éducation nationale.
Que faisiez-vous? Vous étiez professeur, instituteur?
J'étais professeur à Bordeaux.
Ah, professeur de quoi?
Professeur de technologie.
Oh, très bien.
Technologie, on faisait les nomenclatures, vue de face, vue de côté, vue de profil, ah, et oui. Après on créait l'objet avec des diodes.
C'est ça, Patrick?
C'est ça, Stevie, il a tout à fait raison.
Ah, bah, bah, oui.
Stevie, c'est le plus intelligent de la troupe.
C'est comme ça, c'est la génération d'avant.
Ah bah oui, ça, il fait alors, des...
D'après.
D'après.
Patrick, vous allez peut-être, en tout cas grâce aux grosses têtes, c'est tout ce que je vous souhaite, partir nulle part, mais marcher avec des nouvelles chaussures.
Spartout.
Eh oui, c'est spartout.com qui vous offre 500 euros. 500 euros.
Chaussures. Ah, les liaisons dangereuses à la Plaza.
500 euros.
500 euros sur spartout.com. Donc, un maxi choix de modèles de chaussures pour toute la famille, Patrick. Pour vous d'abord, hein. Vous avez envie de changer de chaussures. Ça ira des chaussures chic au basket, rock'n'roll ou un peu plus classe. Il y a 10 000 marques de chaussures possibles.
Incroyable.
Vêtements, sacs à main, celles que vous entendez se moucher. C'est Christine Bravo.
Quelle élégance.
Le plus dur sera de choisir parmi toutes ces chaussures. Ah bah non seulement on vous entend, mais enfin écoutez, il y a le nez qui dépasse du transistor.
Et quel nez ?
Transistor, ça fait 22 ans que je parle de ce mot-là.
Transistor.
J'ai pas entendu ce mot depuis 35 ans.
Transistor.
Le transistor.
Chez Laurent, pour écouter la radio au transistor, on allait chercher les piles chez la voisine.
Alors écoutez bien, monsieur, vous pouvez gagner plein de souliers.
D'accord.
Attends, 500 euros, ça te fait 1000 paires de tongs.
Patrick est à Saint-Médard-en-Jalles et c'est là-bas qu'on vous livrera directement les chaussures parce qu'évidemment, Spartoo.com assure la livraison à domicile. Patrick, sur qui misez-vous ?
Mais je vais miser sur Stevie.
Voilà.
Ah bah, quelle malheureuse.
Bah, c'est vrai qu'il suit plutôt l'actualité. Stevie, c'est pas un mauvais choix.
Qui est Elisabeth II ?
On va commencer. On va commencer par Bernard Mabie. Bernard, pouvez-vous me dire qui est Rodrigo Chavez ?
Oh, Rodrigo Chavez, bah, c'est le président de Chavez, non ?
Non.
Non, de l'Afrique du Sud.
Rodrigo Chavez est le nouveau président du Costa Rica.
Bah, non, j'étais pas loin.
T'étais complètement à côté.
Pas loin.
C'est pas Chavez, c'est Chavez. Ah. Rodrigo Chavez, président nouveau, il vient d'être élu nouveau président du Costa Rica. Vous êtes éliminé, monsieur Mabie. Monsieur Plaza.
Stéphane, pour les intimes.
Qui est Richard Ferrand.
Ah ben, c'est la mère de Franck Ferrand.
Celui qui fait la pub à Kenan. Hein.
Alors, politique.
Richard Ferrand, vous ne lui dites rien.
Politique.
Oui. Mais il fait quoi ?
Là, bah, attendez, non, c'est un homme politique. Richard Ferrand est un homme politique.
Oui, mais...
Qui est à l'Assemblée.
Ah,
président de l'Assemblée.
Oui, bonne réponse de Stéphane Plaza, président de l'Assemblée nationale.
Et bim, qui va encore gagner ce jeu, monsieur Plaza lui-même.
Chantal là-dessous, vous pouvez me dire, cher Chantal, qui est Frédéric Chaud.
Oh. Ah oui. S-H-O-W.
C-H-A-U.
C-H-A-U. Frédéric Chaud, c'est un... Je ne sais pas qui c'est, Frédéric Chaud. Un homme politique.
Ah non. C'est l'acteur qui joue le gendre asiatique dans Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu.
Et ancien steward Air France.
Oui, exact, il a été steward.
Oui, on a fait nos vols ensemble. Bah,
c'est
oui.
pas vrai.
Oui, et alors
mais dis-donc, il a mieux réussi.
On est deux vieilles copines. Hein, oui. Oh, mais il est parti avant moi, mais c'est lui qui a commencé.
Il est beau, lui.
Ah oui. Eh oui, oui.
Bah. Non, parce que les noms d'Ayawa.
Ça sort aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu.
Ah bon.
Eh oui, bah oui, c'est le troisième, il paraît que c'est très bon d'ailleurs. Frédéric Chaud est le gendre asiatique de Chantal Lobby et Christian Clavier. Vous êtes éliminé, Chantal, là-dessous. Bah. Monsieur Boulet, je vous rappelle que Patrick a misé sur vous, Stevie. Pouvez-vous me dire qui est Dilma Rousseff ?
Dilma Rousseff, c'est l'ex-présidente du Brésil.
Parfait, pourquoi on reparle d'elle ?
Oh, parce qu'il y a des histoires de corruption, elle va passer devant le tribunal.
Oh la vache, alors là, le mec,
elle a volé des sous.
Ah, il est aussi intelligent que moi, c'est dingue.
Ah, bah, c'est l'ancienne présidente du Brésil, et il y a suspicion avec Lula, etc. Et...
Elle soutient Jean-Luc Mélenchon.
Oui, aussi.
Non, mais je vous accorde la bonne réponse.
Oh, Stevie, bravo.
Ancienne présidente du Brésil, c'est déjà pas mal.
Je sais même pas comment elle m'est revenue.
Christine, bravo. Vous pouvez me dire qui est, ou plutôt qui sont Florian et Olivio Ordonez.
Je passe.
Ah, ça, c'est une nouvelle règle, ça, alors.
J'adore l'idée.
Florian et Olivio Ordonez. C'est Big Flo et Oli, voyons. Vous êtes éliminé.
Il fallait me dire Big Flo et machin.
Je me tourne maintenant. Bah, si vous avez dit leur nom, alors ça servait à rien.
Bah, oui.
Monsieur Janssen,
vous en prie.
Qui est Stanislas Guérini.
Oh il est corse, non ?
Ah oui, c'est le délégué général de La République En Marche. Vous êtes éliminé. Un duel final entre Stevie et Stéphane.
Les deux plus érudits de la troupe.
Monsieur Plaza, qui est Vincent Macaigne.
Alors là, c'est dommage, je ne l'ai pas dit.
Je suis moi-même comédien, donc lui est acteur.
Oui, gagné.
Ouais, à Stevie, yes.
Bah non, mais précise.
Et qui fait quoi ?
Non, précise.
Mais ça suffit pas.
Il fait quoi ?
Il est acteur.
Oui.
Et il fait quoi ?
Dans quel film ?
La Chantal, je te vois. Hein. Bah, tout le monde a répété ma vue basse.
Jamais de la vie.
Oh non, mais ça va pas. Dans une série ?
Non.
Dans un film.
Et le canapé ouvert sa gueule de l'émission, mais non, dans quel ?
Chantal, elle part dans le micro.
Elle est discrète quand elle souffle.
Oui.
Acteur dans un film qui est sorti il y a pas longtemps, là.
Bon, écoutez, c'est un film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle En même temps, et vous a tout soufflé. Le grand gagnant est Stevie Boulet. Patrick, vous en avez pour 500 euros de chaussures. Qu'est-ce que vous aimez bien porter comme genre de chaussures, Patrick ?
Oh, mais moi j'aime toutes les chaussures de sport. J'aime toutes les chaussures. Vous inquiétez pas, je vais trouver
mon bonheur. Même les talons aiguilles.
Eh ben oui,
vous avez trouvé. Prenez les talons aiguilles, ça vous ira bien.
On trouve.
Et merci à Stevie.
Eh ben, on trouve toujours son bonheur chez Spartoo.com. Bravo et merci, Patrick.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Stéphane Plaza, Bernard Mabie, Chantal Latsou, Jean-Philippe Janssen, Christine Bravo et Stevie Boulet. Une question pour madame Marie-Jeanne Chastel, qui habite Solus. C'est dans le Pas-de-Calais. Vous connaissez Solus?
Oui, c'est là que ça.
Oh,
oh, je rigole.
Il y a encore une aire d'autoroute là-bas, Solus.
Ah oui, l'aire de Solus.
La question est historique. On compte donc sur l'ex-animatrice des Jupons de l'Histoire pour répondre évidemment à cette question. Il faut retrouver le nom d'un soldat. Un soldat de l'armée napoléonienne connu pour avoir en mai 1809 interdit l'entrée du campement français à Napoléon qu'il n'avait pas reconnu. Il n'avait pas reconnu Napoléon et ce soldat lui a dit « On ne passe pas. Si tu fais un pas de plus, je te fous ma baïonnette dans le ventre. »
Il a dit dans le ventre ?
Oui, et c'était Napoléon qui était là. Alors évidemment, l'état-major a voulu sanctionner l'étourdi, mais au contraire, Napoléon l'a décoré en disant « Eh ben, voilà quelqu'un qui ne laisse pas passer n'importe qui.
»
Et il a suivi l'empereur jusqu'à sa défaite définitive en 1815 à Waterloo. Donc vous voyez, quand même, 6 ans plus tard, il était toujours au service de l'empereur.
Ah, oui.
Puis après, il est retourné à son métier de vigneron à Gastein, dans son village natal, dans le Brie. Il ne s'en est éloigné qu'en 1860 pour aller rencontrer Napoléon III à Fontainebleau. Et, et il a même dit à Napoléon III, j'ai bien connu votre oncle, nous avons voyagé longtemps ensemble, aussi je tenais à faire votre connaissance. Comment s'appelait ce soldat napoléonien?
Pourquoi on devrait le savoir?
Parce qu'il a un nom qu'on retient.
Il a des places dans les villes, je suppose.
Pourquoi le...
Même des lycées, pour tout vous dire.
Mais les lycées, c'est son nom, mais c'est pas lui, en réalité. C'est un homonyme.
Exact.
Anatole France.
Non.
Il a l'homonyme d'un écrivain?
Un écrivain, non.
Pourquoi il est connu, surtout?
Quand bien même vous seriez le petit caporal, vous ne passeriez pas. Vous rendez compte de ce qu'il a dit à Napoléon?
Là, tu te rends compte.
Il n'avait pas reconnu.
Ben, quelquefois, on n'est pas physionomiste.
Il s'appelait Jean-Alexandre, Jean-Alexandre.
Dujardin?
Non.
Lascaz?
Non plus.
Jean-Alexandre.
Jean-Alexandre
Dumas?
Non.
Quel est le prénom de son homonyme?
Son prénom, c'était Michel.
Ah,
Proust.
Michel Proust, très connu.
Il s'appelle Michel Ney?
Non.
Oui, il est très connu, votre mec.
Le soldat ou l'homonyme?
Le soldat.
L'homonyme est plus connu que le soldat. Mais c'est ça qui est amusant, évidemment, c'est que le soldat porte le nom de cet homonyme.
Ouais, c'est vrai que c'est amusant.
L'homonyme est mort.
L'homonyme est mort.
Il y a très longtemps.
Non, dans les années 80.
Galabru? Galabru?
Ça, c'est pas bête, Michel Galabru. Au moins, lui, il a compris. Ça aurait pu être le soldat Jean-Alexandre Galabru. Mais non.
Dormano.
Michel.
Oui.
Welbeck. C'est Coluche.
Excellente.
Le soldat Coluche.
Excellente réponse.
Bravo.
Allez, non, alors.
Oh là là.
Il est connu, le soldat Coluche.
Excellente réponse de Christine. Ah oui. Bravo. C'est le soldat Coluche.
C'est dommage qu'elle crie autant quand elle a une bonne réponse.
Et voilà pourquoi je me suis quand même hasardé à vous donner le prénom, parce que c'est vrai que c'est très rare qu'on appelle Coluche par son prénom Michel.
Oui, c'est vrai.
Michel Colucci. Mais effectivement, le soldat en question s'appelait le soldat Coluche. Jean-Alexandre Coluche est le soldat qui n'a pas reconnu Napoléon. C'est drôle quand même, vous le connaissiez.
C'est génial. Oui, l'anecdote est connue quand même.
Eh ben, vous voyez.
Parlant d'anecdotes, vous savez pourquoi Napoléon avait été bien logé?
Parce
qu'il avait un Bonaparte.
Ça fait 6 ans.
On n'en peut plus.
Ça fait 6 ans une fois par semaine.
C'est pas vrai.
Mais tuez-le.
Ça fait rire encore même. Regardez. Donc c'est important. C'était bien là, monsieur. Mais est-ce que j'étais pas bien? Ça voulait que je vous le rajoute pour ce soir dans le texte.
Moi, ça me remonte le moral parce que je m'aperçois qu'on peut réussir en étant très con.
Attends, je peux te dire qu'hier soir, en écrivant mon bouquin, en faisant le bouquin, j'étais pas con, hein. Jusqu'à 2h du matin, j'étais en train de corriger.
Bah, c'est comme le papier à financer.
C'est pas un bouquin, c'est un magazine.
Non, monsieur, c'est une encyclique.
Ouais, mais moi, je l'ai acheté et il est vachement complet.
Merci.
Ah oui,
je peux vous dire, là, plein de trucs.
On est sur la chaudière et tout ça, c'était compliqué.
Ah oui,
c'est moi changer une chaudière.
C'est moi la chaudière.
Régler la chaudière.
Tu fais quoi? Tu corriges les photos?
Il cherche les 7 erreurs.
Vous êtes toujours en une ou pas?
Bah bien sûr, écoutez.
Mais donc, ça fait combien de numéros que vous êtes en une?
C'est le 8e.
Et ça fait 8 fois que vous êtes en une de votre magazine.
Bah oui.
Bah c'est normal. Bah
qui c'est que vous voulez qu'ils mettent?
Bah c'est pas Guy Moquet ou Arthur Imo.
Ne parlez pas des gens qui n'existent plus.
C'est pas Guy.
Ça s'appelle Bienvenue by Stéphane Plaza.
D'abord, c'est pas Guy Moquet, c'est Guy Hockey.
Ah, c'est Guy Hockey. Ah oui, Guy Moquet, c'est le petit jeune communiste.
Mais non, Guy Moquet, c'est une station de métro.
Bah oui, c'est le petit jeune communiste.
C'est une station métro près de Place de Clichy.
Oui, bah c'est qui?
On est à 8000 euros du mètre.
Je suis en train de faire une méningite.
Peut-être qu'il avait des appartements, Guy Moquet, non?
Bah non, il était pauvre, Guy Moquet.
Il y a des mots croisés dans ton livre?
Non, il n'y a pas de mots croisés. Mais tiens, je vais vous l'amener la prochaine fois, parce qu'il est superbe.
Non seulement il n'y a pas de mots croisés, mais il n'y a pas de mots même.
Vous corrigez quoi, votre ami, les photos?
Il n'y a que des photos d'appartements.
Oui, mais pas du tout.
Non, il y a plein de conseils pratiques.
Là, il y a les petites légendes, très bel appartement.
Ah, moi, j'aime bien les pages de l'Oréal.
Il y a des pages de l'Oréal. On découvre une région, on explique la région.
Ah, c'est quelle région, là, dans le numéro 8, alors?
Là, c'est Toulouse.
Toulouse.
Ah oui, ah oui.
Donc c'est quelle région? Donc,
c'est en anglais en plus.
Oh non. Non, non mais. Alors, tiens, je préfère. Oh non, merde. Oh non, mais. Vous voyez,
on
me taquine, moi. Vraiment. Tiens, vous savez pourquoi
On te taquine.
Et Chantal, comment ça se fait que vous avez acheté ce magazine?
Parce que j'adore la décoration et j'adore les appartements. J'aime bien regarder les petites annonces. Et ce truc-là est très complet.
C'est chouette hein, quand on voit un écrivain rencontrer ses lecteurs.
Un écrivain vivant.
Ah, oui.
Quelle horreur.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Alexandre va jouer avec les grosses têtes. Bonjour Alexandre.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Vous avez 42 ans, vous habitez Segré. Mayenne, c'est pas très loin de chez Stevie, ça aussi.
Eh ouais.
Eh oui.
Les gars de l'Ouest.
Exactement.
Bah quoi? Terre agricole? Hein? On fait du bovin chez nous.
Ah oui,
on mange de
voit.
La bonne viande.
Faites-me.
Non mais c'est pour ça que notre campagne elle est belle, parce qu'on est, c'est une terre bovine,
oui,
c'est une terre d'élevage,
ah bah oui,
c'est pas une terre céréalière.
Ouais.
Moi entre Le Mans et Paris, je regarde les paysages et il y a les greniers de Paris là.
Mais
il n'y a pas un arbre à l'horizon.
Je savais.
Il n'y a que des champs
que des vaches,
et des éoliennes.
Fatigue.
Mais va brouter, fous nous la paix. Oh.
Je savais que Pierre Bonte et Maïté auraient jamais dû avoir d'enfants.
Mon Dieu, mais c'est qui ça?
Pierre Bonte.
Oui, mais Pierre.
Les anciens me comprendront. Alexandre, vous êtes toujours là?
Pardon.
Oui, je suis toujours là.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Alexandre?
Je suis responsable logistique.
Ah, très bien. Ah, oui. Monsieur Laurier, de son nom, habite donc en Mayenne et va tenter de partir grâce à RTL en bateau sur le boat pour naviguer sur les canaux et rivières de France. Vous choisirez votre base de départ, là où on vous apprendra à piloter ce bateau, d'ailleurs, parce qu'on prendra 20 minutes à vous apprendre à piloter ce bateau.
D'accord.
Et vous pourrez partir avec 3 personnes de votre choix. Vous avez déjà une idée, un choix, une base de départ, la Bretagne, le Sud, la Camargue, la Bourgogne peut-être, ou les étangs du Languedoc, tout est possible.
Ah, oui.
Peut-être la Camargue.
La Camargue,
ça peut être joli.
Vous aurez soleil au moins, allez voir sur leboat.fr. Mais d'abord, cher Alexandre, il faut évidemment écouter mes grosses têtes, qui vont vous faire comme une sorte de grand journal radiophonique, avec de belles actualités, sauf qu'il n'y en a qu'une de vraie. 5 fake news, une seule vraie info. On commence par Bernard Mabille.
Le magazine Que Choisir révèle le cas d'un consommateur qui a redoublé de malchance. En ouvrant son Kinder Surprise, il a trouvé une pizza Buitoni.
Jean-Philippe Janssen.
Oui, le grand gagnant français de l'Euromillion qui a remporté 200 millions et qui a décidé de donner les gains pour sauvegarder la planète, a également décidé d'offrir 2 escort girls à Nicolas Hulot.
Christine Bravo.
La direction d'Orpea a justifié les économies alimentaires dans ses EHPAD, la majorité de ses pensionnaires ayant connu la guerre et les tickets de rationnement dans leur jeunesse, c'est pour leur redonner un coup de jeune et ne pas les dépayser.
Stevie Boulet.
Augmentation du prix des pâtes. D'ici 6 mois, l'Italie pourrait devenir la première puissance économique mondiale.
Stéphane Plaza.
Erwan Masson, le plus grand fan breton de Johnny Hallyday, a perdu toute sa collection accumulée pendant des dizaines d'années dans l'incendie de sa maison. Il a quand même déclaré « J'aimerais toujours la chanson de Johnny,
allumer le feu.
Chantal, là-dessous.
Yves Calvi, j'aime beaucoup, qui recevait ce matin Yannick Jadot dans la matinale de RTL, a été gravement brûlé quand son costume en fibre de bambou qu'il avait revêtu pour faire plaisir à son invité a pris feu à cause des bougies qui éclairaient le studio à la demande du candidat écologiste.
Alors, à votre avis, Alexandre, qui a dit la vérité?
Alors, on va procéder par élimination. Pour ce qui concerne Bernard et les Kinder, je pense que non, ça va
non,
peut-être
pas
être, on va pas faire le doublé Kinder et plus pizza.
Et ouais, pizza Kinder, ça marche pas. Parfait.
Donc après, bon, donc Chantal pour Jadot qui prend feu, je vais pas partir là-dessus non plus.
Allez, on élimine.
Christine et les EHPAD pour rappeler le temps de la guerre, je vais plutôt enlever ça également.
Bien sûr.
Stevie, première puissance mondiale avec les pattes pour l'Italie, je dis non. Et les escortes pour Nicolas Hulot, je ne le sens pas trop non plus. Je vais plutôt garder Stéphane Plaza avec le pack de Johnny.
Et c'est vrai qu'en plus, maison ait été brûlée à cause d'une couverture chauffante, se passe en Bretagne, et bien ce monsieur Erwan Masson, qui a perdu donc les guitares dédicacées, les affiches de concert, les photos, les vêtements même qui ont appartenu à Johnny, tout ça a été emporté par les flammes.
Le dictionnaire.
et ben il n'empêche que ce monsieur a quand même gardé de l'humour, parce que c'est pas nous qui avons ajouté ça. C'est bien lui-même qui a dit, après, j'aimerais quand même toujours la chanson de Johnny, Allumer le feu.
On pourrait peut-être la mettre.
Voilà ce qu'il a dit d'ailleurs aux confrères de la presse, évidemment bretonne, du Finistère, pour être précis, un des plus grands fans français de Johnny, qui a vu sa collection partir en fumée. C'est West France qui nous a raconté cette histoire. Et grâce à ça, Alexandre, vous allez pouvoir aller en Camargue.
Merci beaucoup, Laurent.
Bravo, Alexandre. Et bonne navigation sur le boat. Une question pour Yvette Valine, qui habite Annecy, en Haute-Savoie. Ça a été découvert et commercialisé pour la première fois en 1938. Mais en 1940, on s'en est servi pour les bas des femmes. Ce dont je vous parle, c'est du nylon, évidemment. Oui. Le nylon a été découvert en 1938, mais le deuxième produit qu'on a vendu avec du nylon, c'est donc les collants, si vous préférez, en nylon. Mais quel est le premier produit vendu dès 1938,
le fil de pêche,
pour lequel on s'est servi du nylon.
La pêche.
Le fil de pêche, non.
Les cuirs des voitures.
Non plus.
Les imperméables, non.
Recoudre les gens dans les hôpitaux.
Oui, mais ça se vendait pas, ça, vous voyez. Ouais. Commercialisé, j'ai dit.
Les blouses. J'ai l'impression, vous n'avez pas compris, Christine, la question, vous voyez. Il faut écouter.
C'était du nylon. Ça avait l'allure de nylon, mais c'était pas du nylon.
Ouais, c'était du Canada Dry.
Ça se vendait en bobine.
Non, mais les deux, là, mais vraiment, mais...
Et t'as raison.
Jamais plus de les installer.
Je vais retravailler sur ce bouquin.
Ça se vendait en bobine.
Oui, oui.
T'as raison, je vais le retravailler.
Plus aimants, ils font masse.
J'ai l'impression de voir le retour des chiens.
Non, mais t'as raison.
On a l'impression des chiens en vrai.
36 cases, qu'est-ce qu'il en veut?
J'ai l'impression de vivre un cauchemar depuis.
Alors,
moi, c'est pas une impression.
Comment pas acheter son palier? Il faut la majorité. D'accord, je le marque.
Ah, je peux acheter mon palier.
D'accord. Oui. Bah toi, t'as pas d'argent.
T'es un voisin, en plus.
Si on pouvait franchir un nouveau palier, ce serait pas mal. Ouais. En répondant donc à ma question concernant le nylon. Le nylon a été commercialisé pour la première fois en 1938. Mais avec quel produit?
Un chapeau, un anglais.
Avant les bas, vous voyez.
Un produit de l'armée.
Un produit qu'on porte aussi sur nous.
Voilà, merci.
Qu'on porte sur nous, non.
Un produit de l'armée.
Non. Qui nous sert
un
à
produit
quelque chose.
Qui existe encore aujourd'hui.
Sous quelle forme a-t-on
un
vendu?
Un parapluie.
Non.
Est-ce que ça servait à se protéger?
Non.
À s'embellir.
À s'embellir, se protéger indirectement.
Mais... Des lunettes. What is glasses en anglais.
Enfin, vous voulez savoir comment on fabrique le nylon, c'est ça?
Oh là là.
Des blouses.
Non, parle-moi de soupente, c'est mieux. Reviens sur la soupente.
Vous vous rendez compte de la question qu'elle vient de poser? Vous voulez savoir comment on fabrique le... Ça vient d'où, ça?
C'est ça la question.
C'est pas comment on fabrique le nylon. C'est qu'un jour...
Oui.
Il y a eu du nylon.
Oui.
Oui.
Et donc voilà, c'est tout.
J'ai vu le crash arriver, mais avant qu'elle commence à parler.
Et la question, c'est quel jour? Quel jour, Chantal, le nylon? Hein?
C'est un mardi, c'est un jeudi, c'est quel jour le Ninon?
C'est en juin le jour le plus Ninon. Il y a même eu un film. C'est le débarquement, le jour le plus Ninon.
C'est le jour le plus Ninon.
C'est avant le Ninon.
Même chose, ça a été chanté par Dalida, le jour le plus Ninon.
Vous pouvez répéter la question que Chantal n'a pas comprise?
Non, avant le Ninon, il y avait un autre produit.
Pas du tout.
Est-ce que ce produit existe toujours actuellement?
Toujours.
Et on l'achète toujours?
On l'achète toujours.
On le trouve dans une maison?
Ah, c'est pour bouffer, c'est pour le plombier.
Le Kawai.
Pardon?
Le Kawai.
Oh, le Kawai en 1938.
Est-ce qu'on le trouve dans une maison?
Oui.
C'est dans la cuisine?
Dans la cuisine?
Non, dans la cuisine. Si vous mettez ça à la cuisine, c'est possible. Ça m'arrive, moi, d'ailleurs, pour tout dire, parce qu'en ce moment, tout n'est pas fini chez moi. Donc, mais en tout cas.
Ah bon?
Les brosses à dents.
Bonne réponse. De Jean-Philippe Janssen.
Voyez, oui.
Les brosses à dents. C'est incroyable. Moi, je trimballe ma brosse à dents partout dans la maison.
Mais pareil, j'en ai dans la cuisine, dans votre sac quand vous découchez.
Pardon.
Vous pouvez l'avoir aussi dans le sac quand vous découchez.
Non, mais en fait, ça, c'est un bon truc pour parce que on ne se brosse jamais suffisamment longtemps les dents. Donc, c'est vrai que la meilleure façon de se brosser plus longuement les dents, c'est un petit conseil que je donne, c'est de ne pas rester dans la salle de bain. C'est de se brosser les dents et de marcher.
Et ben, c'est vachement intelligent comme conseil.
Mais bien sûr.
Et si on me l'avait donné avant, je me serais lavé les dents, tu vois.
Et voilà,
le problème, c'est que lui, dans son appartement, attendez, vous pouvez développer. Je vais le marquer dans le bouquin.
Parce que c'est vrai que d'ici, on sent la pièce du fond. Hein.
Et est-ce que vous savez qu'il faut se laver la langue?
Oui, bien sûr.
Gratter.
Attendez, moi, je marque tout ça.
Mais vous pouvez gagner du temps, Laurent.
Mais moi, attendez, petit conseil de Stevie.
Vous pouvez gagner du temps, se brosser les dents, c'est bien entre les dents, dans le fond, etc. Mais après, pour devant, vous prenez un bout de votre serviette, pour vous essuyer, donc elle est un peu, quand même un peu dure, et vous frottez vos dents avec, ça enlève carrément, mais elles vont déjaunir vos dents.
Vous faites
ça avec le torchon, vous frottez bien. Juste le tissu sur tes dents.
Oui.
Et en fait, ça enlève toute la merde.
Un bon conseil de Fernandel.
Oui.
Mais non, essayez.
Et c'est vachement pas idiot. Tu mets les dents aux chiottes, par exemple. Tu mets. Mais c'est vachement intelligent,
c'est bien,
ça.
Non.
Tu mets ta brosse à dents aux toilettes dans tous les endroits, effectivement, où tu passes du temps sans rien faire.
Oui, mais tu peux la laver aussi.
Tu dois te brosser les dents en poussant.
Tu peux la mettre dans l'eau pour la laver.
Oh non, c'est trop dur.
Non, mais ça va pas.
Moi, je fais le tour de l'appartement, mais j'ai pas un aussi grand appartement que vous. Ça prend une heure. Vous avez le temps de vous laver les dents. Moi, en 2 minutes, j'ai même pas 3 minutes. 2 minutes, c'est fait. Hein.
En tout cas, les brosses à dents étaient en nylon au départ, en 1938. Ça a été le premier usage du nylon dans un produit commercialisé. Et puisque vous posiez la question, chère Chantal, le nylon, alors c'est fait tout simplement de cellulose, pétrole. De viscose, de tas de choses qui sont en ose. Oui. C'est Dupont de Nemours qui a effectivement inventé le nylon. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Vous n'avez pas les plaques d'égout aussi, non?
Il paraît même que nylon, ça vient de, mais là, on n'en est pas sûr, des prénoms des 5 épouses chimistes chez Dupont de Nemours, à savoir Nancy, Yvonne, Luella, Olivia et Nila.
C'est une belle histoire.
Ah, je vous en apprends ces trucs.
Là, vous marquez des puns.
Il paraît que c'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, c'est ce qu'on raconte.
RTL. La valise.
À qui allons-nous confier la valise RTL? À Jean-Philippe Janssen, il y a longtemps qu'il n'a pas fait la valise.
Ah oui, j'aime bien, c'est mon petit moment.
Bah oui, Chantal, vous avez donné un numéro. Je suis fatigué, Chantal, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné la valise, ça aurait pris 10 minutes. Donnez-moi plutôt un numéro.
Le 15.
Le 15, voilà, ça c'est bien, c'est clair, c'est net. Monsieur Janssen va en faire quelque chose. Romain Hainaut, monsieur Hainaut habite Chapelle-Avatine en Belgique.
Ah!
Ça a sonné chez Romain.
Chapelle-Avatine.
Oui, Chapelle-Avatine. Romain Hainaut, H-E-2-N-A-U-T, tout simplement.
Oui, bien sûr.
Ça sonne, première sonnerie.
Ça sonne.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour, vous êtes monsieur Romain Hainaut?
Oui.
À Chapelle-Avatine?
Oui.
Oh, mais ça fait plaisir de vous avoir. Vous devinez qui c'est qui vous appelle?
Bah ouais, c'est quasiment un voisin.
Ah oui, c'est qui c'est alors?
C'est Jean-Philippe Janssen.
Oui, oui. Et oui, parce que...
Bonheur.
Monsieur Hainaut est en Belgique, pour tout
oui,
vous dire.
Moi j'étais de la frontière belge, je comprends bien. Alors, justement, devinez-vous pourquoi nous vous appelons Monsieur Hainaut de Chapelle-la-Matine, aujourd'hui, un jour spécial?
J'espère que c'est pas pour deux montres RTL.
Non. Si vous avez la valise RTL, ce sera pour mieux.
J'espère.
Est-ce que vous avez le contenu et le montant de la valise RTL, Monsieur Hainaut de Chapelle-la-Matine?
J'espère que j'ai rien oublié.
Allez-y, tentez. Je vous écoute.
Il va me manquer un truc.
Mais non,
vous avez rajouté un truc hier, on est dans les bouchons avec ma compagne.
Ah oui, hier on a ajouté quelque chose. Ah, mais si vous étiez dans les bouchons, ça peut vous revenir. Tout dépend s'il y avait quelqu'un à l'arrière, je vous aide un peu de la voiture ou pas.
Oh, bien joué.
Ah oui, le siège bébé.
Exact.
Ah
oui, je vous ai aidé.
Ah, il est bien
c'est génial.
Alors, allez-y, je vous écoute.
Alors, 1016 euros.
1016 euros, j'en avais un peu marre de cette valise, j'ai vendu le dernier article.
Un rituel, pas maison, Turinès, 3 produits.
C'est bien.
Ouais.
2 places pour le film Notre-Dame brûle de Gigi Hanau.
De Gigi Hanau,
Un barbecue ravisé fabriqué à New York.
Oui.
Un séjour en Alsace à Colmar pour 2 personnes avec séjour à l'hôtel 4 étoiles. Le Marshall et un dîner au restaurant plus 2 passes pour le musée de la ville.
Ah, vous avez tout noté pour fêter le printemps en Alsace, exact.
Oui.
Une chaîne IFI Muse, marque française, Europe.com.
Oui.
Un colis de préservatif Durex.
Au cas où vous n'iriez pas en Alsace avec votre femme.
Et un album de Michael Bublé, ailleurs en vinyle.
Oui.
Et le siège bébé.
Ah non, entre le siège bébé et lundi, j'ai quand même ajouté quelque chose.
Oh là là, non.
Aïe.
Entre l'album de Michael Bublé et le siège bébé. Déjà, le siège bébé, je ne vous demande même pas la marque. Vous voyez, je suis gentil, c'est Axe Kid One. Mais lundi, je veux bien vous avoir un peu soufflé pour hier, mais lundi, on a ajouté quelque chose, lundi.
Ah, mince. Non, c'est pas vrai, c'est une blague.
Non, c'est pas une blague.
Non, cherche bien, vas-y.
Allez, monsieur Ruquier, qu'est-ce qu'on peut bien avoir ajouté lundi?
C'est quoi bientôt?
Ah, c'est des œufs, les cloches de Pâques.
Ah, alors donc, qu'est-ce qu'on a rajouté?
Du chocolat.
Oui, mais quoi? Quelle marque, là, quand même?
Ah bah, mais je suis belge, hein, moi, c'est quoi la marque?
Justement.
Galère.
Ah non, galère, c'est ce qu'on est en train de vivre, là.
Quel à propos, monsieur Ruquier.
Ils sont français.
Non, je vous jure, je peux pas, là, pour les autres candidats, je peux pas faire exception.
Ah, c'est pas des nœuds.
Comment?
Des nœuds.
Ça va être sans regret, parce que de toute façon, il vous manquait 2 choses. Vous voyez, il vous aurait manqué une chose. Je dirais, vous pouvez avoir des regrets, mais manifestement, il vous manque et ce qu'on a ajouté hier, et ce qu'on a ajouté lundi dans la valise RTL.
Je comprends.
Deux choses, c'est trop. Je peux pas vous accorder la valise RTL à deux éléments près. Oh. Pourtant, Dieu sait, vous avez noté que j'avais envie de m'en débarrasser de cette valise.
Ouais, j'avais bien compris, et vous l'avez déjà dit hier, mais on a même rigolé avec ma compagne dans la voiture hier, parce qu'on s'est dit que le pack de Durex et le siège bébé, c'était pas compatible.
Dites des noms de fromage,
de chocolat.
Dites des marques de chocolat.
Bon, c'est foutu, on va pas pouvoir rester plus longtemps, je suis désolé, je suis triste. C'est ballot. Aïe.
Ah oui, on aurait bien voulu lui donner.
Monsieur Hainaut, à Chapelle-la-Matine en Belgique, ce sera 2 montres RTL, comme vous l'aviez prédit, en fait. C'était un coffret de chocolat réhauté. Un coffret de chocolat réhauté, le siège auto, c'est Axe Kid One. Voilà ce qu'il y a dans la valise RTL. Pour avoir un contron, il y aura désormais une 10e chose dans la valise RTL, puisque je vais ajouter 2 places VIP pour Fry. Fry, c'est la Fun Radio Ibiza Experience.
Ah, là, là.
Un grand show électro qui aura lieu le 29 avril à l'Accor Arena avec les plus grands DJ de la planète. Ils vont mixer dans cette prestigieuse salle, l'Accor Arena. Alors, il y aura, attention, écoutez bien les noms. Kungs, Bob Sinclair, Don Diablo, Purple Disco Machine, Offenbach, on les aime bien, Offenbach, Afrojack, une seule mission pour eux, vous faire danser au cours de cette Fun Radio Ibiza Experience. Fry, allez voir sur funradioibizaexperience.fr pour évidemment vous inscrire et acheter des places pour l'Accor Arena le 29 avril. Dans la valise, il y a 2 places VIP pour Fry en plus.
Vive la danse.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes. Heureux de vous revoir, invité mystère.
Vous allez bien? Parce que vous êtes déjà vu.
Ça va bien. Bonjour Laurent. Bonjour à tous.
Bonjour. Vous connaissez la personne?
Ah bah, je connais la personne. Tout le monde connaît notre invité
mystère.
Vous êtes
venu il n'y a pas longtemps?
Non, c'est pas ça, mais ça fait quand même, on va dire, à peu près 30 ans que je fais de la radio. Donc, vous voyez.
Ah oui, mais on a l'impression que vous l'avez vu hier. Ah, pardon, Laurent.
Je suis aimable avec les invités que je reçois, contrairement à vous, voyez-vous.
Oui, alors. D'accord. Vous êtes assez vieux, alors, comme mec.
Je suis, en effet.
Mais c'est une femme.
Mais vous êtes vécu.
C'est une fille.
Vous êtes un mec?
Non, bah non.
Bah, je crois pas.
Donc, on vous connaît depuis plus de 10 ans, invité mystère.
Oui.
Vous êtes parisienne?
Pas vraiment. Moi, à moitié.
Vous avez des enfants?
C'est-à-dire à moitié?
Ben je vis à moitié à Paris et à moitié en dehors de Paris.
Ah, comme moi.
Vous avez des enfants?
En France, en France.
J'ai pas d'enfants.
Est-ce qu'il y a des enfants? Aucun enfant, vous êtes sûr?
Je suis sûr, mais j'ai essayé beaucoup.
Ouais. Bernard Mabie pense à Yolande Moreau, mais vous n'êtes pas Yolande Moreau. Voici un premier indice musical.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille. Sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Car au gorille.
Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère?
J'imagine, mais je suis pas sûr.
C'est Julie Depardieu. Voilà le premier indice. Oh là là, c'est un indice important qui est lié à votre actualité, invité mystère.
Exactement.
Bon, d'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument?
Non.
Ça vous fait rire, ça, évidemment.
Bah, évidemment, Laurent.
Et pourquoi?
Vous savez pourquoi?
Et pourquoi?
Stéphane Plaza, je sais pas comment, mais Stéphane Plaza vous a déjà identifié.
C'est pas vrai. Mais parce que je suis admiratif, je connais très bien cette personne.
Vous taisez maintenant, Stéphane.
Je ferme ma gueule.
Oui.
Voilà. Et ce que je peux dire quand même, c'est que.
Non!
Mais il n'y a pas d'indice.
Non!
Je t'ai soufflé tout à l'heure, tu veux pas me le dire?
Elle adore mon bouquin.
Vous avez une émission?
Oui.
Voici un deuxième indice.
C'est la vie de château avec toi.
C'est la vie de château avec toi, chantée par Peter Sloan, dont on a appris il n'y a pas longtemps que c'était pas si bien cette vie de château. Mais enfin, c'est comme ça. J'espère que la vôtre était meilleure, invité mystère.
Absolument, oui.
Bernard Mabie propose Yves Lecoq. C'est vrai qu'il vit dans un château,
Yves Lecoq. Mais c'est pas une femme.
Vous n'êtes pas Yves Lecoq. Jean-Fille Janssen propose Chantal Nobel. Ce serait le grand retour de Chantal Nobel.
Est-ce qu'on vous entend ou on vous a entendu en radio, invité mystère?
Oui.
Voici un autre indice. Ah, cette chanson d'Oscar Benton, c'est la chanson du film Pour la peau d'un flic. Ça vous rappelle quelque chose, invité mystère?
Bien sûr.
Elle a joué là-dedans?
Est-ce que vous avez joué là-dedans?
J'ai joué là-dedans, comme dit.
Christine.
C'est un truc avec Delon, c'est ça?
Voici encore un indice. Voilà des trompes de chasse de Sologne.
Invité mystère.
Oh, bah, sois pas agressif. Est-ce que vous aimez les chevaux, madame?
Oui. Mais je pense pas que ce soit la piste de l'indice.
Vous pratiquez la chasse à cour?
Non.
Stevie, lui, vous a identifié. Ah. Bravo, Stevie. Bernard Mabie propose Macha Meryl. Êtes-vous Macha Meryl?
Non,
mais c'est vrai que vous avez fait les grosses têtes pendant des années.
Oui, c'est vrai.
Vous avez croisé Bernard Mabie à cette époque?
Oui.
Eh oui.
Et pas que. Pas grosses têtes.
Voici encore un indice.
Quand tout passe, lance une trille joliment. Minute pleine de grâce, et on reprend. Les feuilles
C'est Catherine Ringer qui chante « Vive l'amour ». Vous comprenez l'indice, évidemment.
Bien sûr,
vous avez
bien
un
sûr, Laurent.
Point commun avec Catherine Ringer, c'est d'avoir fait une deuxième carrière, n'est-ce pas, Vité Mystère ?
N'est-ce pas ?
Chantal là-dessous vous a identifié. Bravo, Chantal.
Oui, je vois très bien.
Et Bernard Mabie aussi vous a reconnu. Bravo, Bernard. Alors, qui cherche encore ? Jean-Philippe Janssen et Christine Bravo continuent à chercher. Ah, est-ce que vous voulez entendre la voix de notre invité mystère ? Ça y est, Jean-Philippe Janssen sait qui vous êtes.
Hey.
Alors que Christine Bravo cherche encore.
Non, vous avez... Oh la vache, ouais. Vous avez été assez sexy comme meuf.
On peut le dire.
Avant d'être Cathy, vous étiez bien. Oh, c'est sympa.
Christine Bravo, qui a l'art, évidemment, de poser des questions élégantes. Vous avez été assez sexy comme meuf. Vous a identifié. Ça veut dire, si mes comptes sont bons,
tout le monde
le monde vous a reconnu. Et j'enquêterai pour savoir comment Stéphane Plaza a triché et vous a reconnu au bout d'un indice.
Alors.
Mais notre invité mystère, c'est
Brigitte Lahaie.
Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie était bien notre invité mystère. Et j'aimerais savoir, avant qu'on parle de l'actualité de
Brigitte
Lahaie.
Alors, qui est-ce qui a dit que j'étais des Cathy ?
C'est Christine Bravo.
Ça va pas.
Mais on s'est regardé.
Ils sont pas bien, j'ai jamais dit ça, mais vous êtes bien.
Non, je crois que c'est Bernard. C'est avec lui pour dire que c'est vachement pareil.
Non, j'ai
mais
pas dit
ça. Mais si, Bernard, à vous.
C'est moche qu'il a dit.
On va régler ça tout à l'heure. Hein. On va voir plus des Cathy des deux.
Il a déjà trouvé son heure de colle, lui.
Surtout que...
Avec Brigitte Lahaie, une heure de colle, il prend, hein. Regarde-moi ça.
Surtout que vous avez des dossiers sur Bernard Mabie.
J'en ai plus d'un, oui.
Ah bon ?
À mon avis, vous devez avoir des dossiers sur Plaza aussi.
Non,
parce
pas
que
du tout.
J'aimerais bien savoir comment Plaza, vous avez reconnu aussi rapidement Madame Lahaie.
Un, parce que je la suis beaucoup. Deux, la nouveauté, c'est qu'elle va faire des podcasts et elle a fait de l'humour.
Des quoi vous dites ?
Des podcasts érotiques, je crois, non ? C'est pas ça ?
Des podcasts.
Oui, j'appelle ça des podcasts. Et de deux, elle a dit qu'elle avait beaucoup essayé d'avoir d'enfants, donc j'ai pensé à une idée un peu subliminale de moi, et j'ai pensé au film. Voilà. Excusez-moi d'être érudit, monsieur Ruquier, et d'avoir l'intelligence du mot français, de la langue française. C'est une belle langue, il faut la maîtriser.
Ouais, ben bah, tu connais en langue. Hein.
En tout cas, c'est pas ça la nouveauté. Vous faites pas des podcasts.
Je vous ai pas convaincu.
Des pods.
Ouais, on s'en fout. Enfin, vous faites un truc sur la radio un peu érotique.
Oui, c'est vrai. Oui.
Voilà. Mais c'est pas la raison de la venue de Brigitte Lahaie. Voilà pourquoi je crois pas du tout vos. Je ne crois pas du tout vos sornettes.
Tu l'as vu.
Mais je l'aurais vu quand.
Tu l'as vu quand t'es allé faire pipi. Tu l'as vu.
Elle était pas arrivée.
T'es allé faire pipi.
Il a triché.
Alors, c'est très mauvais ce que vous dites. C'est quelqu'un qui a bercé mon enfance et qui est très connu.
Ah
et
oui, c'est ton enfance.
Et elle est pissée dans sa loge.
Bah genre, oh non, on fait pas pipi dans la loge de Brigitte.
La venue de Brigitte Lahaie n'a rien à voir avec la radio ni les podcasts. Ah. C'est que vous allez pouvoir la voir le mercredi 13 avril prochain. C'est-à-dire dans pile une semaine sur France 2 avec Julie Depardieu, d'où le premier indice.
Ah.
Voilà pourquoi on a entendu Julie Depardieu chanter le gorille de Georges Brassens, parce que Julie Depardieu est juge ex-flic dans cette enquête, l'enquête sur une disparition. Vous êtes, si j'ai bien compris, DRH dans...
Dans une grande boîte, oui.
Ah, voilà, avec Daniel Russo, c'est ça ?
Oui, absolument.
Oh. Et racontez-nous un peu.
Alors, en fait, moi, je suis DRH et au début, on voit une scène assez violente où je maltraite une de mes employées. Et puis, au fil du téléfilm, on se demande si je l'ai tuée ou pas. Et Julie enquête, voilà.
Et bref, alors, vous l'avez tuée ou pas ?
vous le saurez le 13 au soir.
Voilà, oui. Mercredi prochain à 21h05 sur France 2, disparition. disparition inquiétante. Donc j'imagine que Julie Depardieu va vous interroger en long en large.
Absolument, elle me déshabille.
Oh.
Je plaisante. Elle essaye de dévoiler la vérité.
C'est-à-dire qu'en fait, elle a été flic avant d'être juge, donc ça l'aide évidemment à mener l'enquête.
Exactement.
Disparition inquiétante, un épisode inédit, mercredi 13 avril prochain à 21h05 sur France 2. J'explique les différents indices, évidemment. Julie Depardieu, je viens de vous l'expliquer. Le deuxième indice, alors évidemment, il fallait comprendre que la vie de Château, il s'agissait de la vie avec René Château.
René Château vidéo ? Mais c'est un vieux générique avec une panthère noire.
Oui, la panthère, oui.
Parce que j'ai vécu quelques années avec René Château.
Beau
garçon, en l'occurrence.
Et qui distribuait vos films.
Absolument.
Aussi, quand même. Et ceux de Belmondo, d'ailleurs, aussi.
Et Bruce Lee.
On a tous les deux fait des cascades.
Exactement.
Trop drôle.
Mais c'est vrai, vous avez remarqué que j'ai choisi un film qui n'était pas un film ni érotique, ni X, pour le générique qu'on a pu entendre en troisième indice, cette magnifique chanson d'Oscar Benton. C'est vrai que vous avez eu plusieurs carrières. La troisième carrière, c'est la radio. La deuxième carrière, on va dire que c'est actrice, mais dans des films...
habillée.
Visible par tous, par toute la famille. Et évidemment, c'était pas le cas des tout premiers films, qui existent encore, d'ailleurs. Je me pose la question, parce que...
Oui, ça marche encore.
C'est pas vrai.
Vous avez une rente.
Ça
rend, enfin, tous les mois,
tous les mois, faut pas exagérer non plus. Mais ça marche encore.
Si toucher à chaque entrée et chaque sortie, ça fait du pognon.
Ça fait du monde, hein.
Mais est-ce que...
Moi, je serais millionnaire.
Moi, j'ai jamais vu de film X.
Souvent, c'est dans des châteaux. C'est toi. Des endroits
j'ai
avec
pas
des
vu, Brigitte. Est-ce que ça a beaucoup évolué par rapport à
la pornographie, oui, bien sûr. Oui.
Parce que je me rends pas compte. Non,
avant, c'était secret. C'était quelque chose qui n'était pas accessible aussi facilement qu'aujourd'hui. Et oui, ça a tout changé au métier.
Avant, on s'embrassait sur les lèvres.
Et pourquoi au métier ? Au métier, les acteurs font la même chose. C'est
pas vraiment.
Et plus de la même façon.
Plus pareil.
Ah bon, c'est-à-dire ?
D'abord, il y a des amateurs, il y a Jacques et Michel, il y a...
Vous êtes bien renseigné. C'est des vrais films, avec des scénarios, des décors.
Moi, je mets bien.
Moi, le premier casting où je suis allé en sortant du cours Simon, c'était un film porno, mais je ne le savais pas.
Que vous dites ?
Non, c'est dommage, Chantal, vous avez peut-être raté votre carrière.
Peut-être, oui.
Avec un nom comme là-dessous.
Bien sûr, le metteur en scène.
Et au moins, on aurait compris pourquoi vous articuliez mal.
Quelle horreur!
Vous voyez, ça n'a pas changé ici.
Eh non, non.
Combien d'années vous avez fait aux Grosses Têtes, Brigitte?
5-6 ans avec Philippe, oui. Et Bernard, d'ailleurs, entre autres.
Vous n'avez jamais eu une aventure ensemble?
Le résistant?
Pas du tout.
Pas du tout, bah là, elle n'était pas
dans les gardes. Non, mais il est venu chez moi.
Elle a du goût.
J'étais beau à l'époque.
Il est venu chez vous.
Oui.
Ah là là.
Comment ça ?
Dans son moulin ou sa maison de campagne.
Dans ma maison de campagne.
Il était son moulin ?
Regardez, il a l'air tout excité.
Ah oui, toujours.
Ah bah t'es rouge là.
Mais il m'a même écrit un sketch pour un spectacle, Bernard.
Ah oui ?
Oui, ça, il s'en souvient plus. Il est vraiment décati.
La vache.
Brigitte Lahaie, maintenant, il faut le dire, des rôles bien plus sérieux et graves et inquiétants même. Est-ce qu'elle est coupable ou pas ? Ça, vous le saurez mercredi prochain. Effectivement, ça s'appelle Disparition inquiétante. Elle sera sous pression, interrogée par Julie Depardieu. Elle et aussi Daniel Russo, excellent acteur. On peut citer Pierre Rochefort, David Ballot. Voilà donc un épisode qui traitera du harcèlement sexuel en entreprise. C'est un sujet intéressant et important.
Actuel.
Je le subis tous les jours aux Grosses Têtes, le harcèlement sexuel. C'est terrible.
Faut venir me voir.
On ne s'en sort jamais.
Par qui vous êtes harcelé?
Par ma hiérarchie directe.
Pas par moi, tout de même.
Mais non, je rigole, bien sûr.
Non, bah non, j'aimerais bien. Non, non, n'arrive pas ici. Il n'y a personne qui m'a. Ça fait un moment qu'on m'a pas harcelé, je te le dis, moi.
Bah, je suis harcelé moralement devant le dompteur.
Ce qui compte pour Brigitte Lay, c'est qu'on regarde cet épisode inédit pile dans une semaine, mercredi 13 avril à 21h05. Une disparition inquiétante sur France 2. Merci, Brigitte Lay.
Merci à tous.
Merci, à bientôt. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Grosses têtes.